Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. Et oui, un moment incroyable, podcast 121, déjà 121 podcasts avec vous. Et comme tous les premiers mercredis du mois, eh bien il s'agit d'un bilan du mois précédent, en l'occurrence le bilan du mois de novembre 2009. Un mois, ma foi, fort riche, avec moult sorties de gros jeux, les gros blockbusters de fin d'année, eh bien, ils sont sortis ce mois-ci, et avec, mine de rien, pas mal de news. Du coup, vous le savez, on va commencer avec votre best-of, les news que vous élisez chaque samedi. Ensuite, on va parler de l'homme du mois, qui ce mois-ci ne sera peut-être pas un homme, teasing. Et bien
oh
ensuite,
là là.
Les coups de cœur, les coups de gueule de la rédaction, les gros jeux qui sont sortis, et puis les news incontournables du mois de novembre 2009. Mesdames et messieurs, Pia, Raon, Julo, Traz, est-ce que vous êtes prêts?
Ouais.
Ah bah voilà, ça fait plaisir. Eh bien c'est parti, podcast 121, bilan du mois de novembre 2009, on commence avec votre best-of. Et la première news que vous avez plébiscitée, eh ben, elle nous fait beaucoup plaisir, hein, forcément, et on vous en remercie, c'est Gameblog, 1 million de visites par mois, désormais, et ça... Bah c'est grâce à vous.
Ça fait quelque chose.
Bah ouais, ça nous touche énormément, forcément. Merci de votre soutien, de votre confiance.
De votre fidélité.
De votre fidélité. Hein. L'aventure a commencé le 20 février 2007. On est maintenant au décembre 2009 et pourtant bah, ça continue et de plus belle. Il y a encore,
contre toute attente.
C'est ça. Il y a plein de belles choses qui nous attendent, qui vous attendent dans les semaines et mois à venir. Pas mal de choses pour vous, hein, vraiment au niveau de l'aspect communautaire qui va vous être dévoilé très rapidement. Normalement, des choses qui vont vous permettre de vous éclater encore un petit peu plus sur Gameblog. Un grand merci collégial, vraiment, une fois de plus.
Merci.
Voilà, en... merci. Voilà, bah Traz, un micro arrive.
Merci beaucoup à tous et à toutes, voilà.
On vous aime.
Et ça, ben oui, on vous aime, mine de rien, vraiment. Allez, l'autre information essentielle que vous avez retenue dans les best-of, c'est, ça y est, la date de sortie française de Final Fantasy XIII. Le jeu sortira le 9 mars 2010 chez nous, et ça... Effectivement, c'est quand même la méga classe, puisque carrément. Le jeu, le délai entre la version japonaise qui sortira le 17 décembre 2009, là, dans à peine quelques jours, eh ben, n'a jamais été aussi court de l'histoire, hein, Julo.
Bah ouais, alors tout du moins, si on fait exception de l'épisode online FF11, c'est vrai qu'on a déjà commencé à avoir les Final Fantasy chez nous à partir du 7, et encore fallait attendre un an, voire un an et demi, voilà, avant d'avoir la version française après la version américaine, qui elle-même sortait peut-être un an après la version japonaise. Bref, c'est vrai que c'était toujours un temps d'attente monstrueux, et puis là, voilà.
En plus, avec des
ils ont tenu leur parole, parce qu'ils en parlaient, le patron de Square Enix en a parlé plusieurs fois, voilà.
Ils ont même tenté de faire une sortie mondiale à la base.
Ils ont tenté à la base de faire une sortie mondiale, ouais. Et là, du coup, bah, c'est pas mondial, mais quasi, quoi. Il y a les 3 mois de différence.
Ça se trouve, on aura des traductions de la qualité de celle d'FF7.
Je n'espère
comment
pas.
Comment plomber l'ambiance.
En tout cas, on le sait, hein, le jeu sortira sur un Blu-ray sur PlayStation 3 et sur 3 DVD sur Xbox 360. A priori, malheureusement, même si tout n'est pas encore totalement défini chez Square Enix, la version que nous allons pouvoir jouer en France sera en anglais, enfin les voix en anglais sous-titrées en français. Ils ne devraient pas avoir la possibilité d'avoir les voix japonaises. Ce en quoi Square, qu'on a vraiment contacté à ce sujet-là, parce qu'on sait que ça vous intéresse, répond, et à juste titre, que malheureusement, rajouter les voix en japonais, ce n'est pas juste rajouter que les voix, c'est aussi mettre le double au niveau des cinématiques, puisque tout est relip-synqué, c'est-à-dire que pour faire en sorte que les bouches fassent les mêmes mouvements de lèvres, en gros les cinématiques en temps réel, ça prend pas trop de place, c'est juste du code et mais par contre les cinématiques
en
image de synthèse,
faut les refaire,
voilà. Et donc autant ça pourrait tenir ric-rac sur un Blu-ray, mais dans ce cas-là il faudrait qu'il soit très très gros, autant sur Xbox 360 ça voudrait dire qu'il faudrait au minimum 6 DVD, et ça très clairement ce sera pas le cas.
Mais ça intéresse encore quelqu'un d'avoir les voix en japonais?
Oh oui, bah oui. Énormément de
pourquoi
personnes.
Pourquoi pas les voix anglaises pour
ils veulent avoir le choix, et puis la version originale est japonaise, c'est comme quand on va au cinéma, on veut la VO, quoi.
Sur chacune des interviews d'ailleurs qu'ils ont faites, tu avais toujours des journalistes qui demandaient « Et vous allez mettre aussi les voix japonaises ?» Et à chaque fois, ils répondent la même chose. « Ah, mais ça vous intéresse vraiment ?» On leur dit « Bah oui, ça nous intéresse. » Et pourtant, la question revenait à chaque fois. Ils redisaient à chaque fois « Ah bon, ça vous intéresse ?» Je ne sais pas s'ils y croient pas. Ou quoi.
Je pense que c'est une façon polie de dire non.
Ouais,
ils ne seront pas.
Exactement.
Non, mais, enfin, vraiment, au Micromania Game Show, pour avoir vraiment pu être assez proche des responsables de Square Enix lors des présentations d'FF13, ils y songent vraiment. Hein, et puis, ils l'ont vu, hein, le nombre de personnes qui le demandaient, mais c'est vraiment une histoire technique,
Et puis ça sera pas solutionné par le téléchargement a priori, puisque c'est trop gros. Donc,
Et il faut pas oublier que, parce que des gens bien sûr vont dire oui, mais dans Uncharted par exemple ou dans d'autres jeux, il y a le choix des voix, mais c'est pas le même volume de texte, de dialogue. Donc malheureusement pour les voix, ça risque d'être un petit, ça sent le roussi. En revanche pour la date, c'est une vraie bonne nouvelle, et c'est vrai que le jeu a l'air grandiose. Les derniers trailers qu'on a vus.
D'une manière générale, ça rassure un peu quand même, parce que
moi je suis rassuré depuis longtemps, depuis
le TGS.
En tout cas depuis le TGS à fond, ouais vraiment, parce que déjà le jeu est juste mais splendide quoi. Ouais. C'est magnifique, c'est du jamais vu quoi sur PS3. C'est vrai que ça a un style bien particulier. Je sais que vous allez me parler d'Uncharted 2.
Non, pas du tout.
Non.
Quel jeu ? Mais dans tous les cas, c'est juste. Enfin, voilà, quand on sait que la dimension que va avoir le jeu, la taille que va avoir le jeu, ça va être phénoménal.
On rappelle en plus que quasiment.
On espère ne pas être déçu quand même.
Clairement. Mais le système de combat est très dynamique, très intéressant. Il est l'œuvre du même créateur des combats de Final Fantasy X, qui était
un très bon système.
Avec très très bon système, très nerveux.
Promet des retournements de situation
à la
FF7, etc. Enfin, des trucs un peu dramatiques comme ça. Ouais. Hein. Donc
espérons effectivement ne pas être déçus, mais
on a beaucoup d'espoir.
Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant on n'a vraiment rien vu, puisque toutes les images qui ont été montrées quasiment à 90% se placent sur la lune de Cocoon. Sauf que en dessous de la lune de Cocoon, il y a tout le monde de Pulse, le grand Pulse comme on l'appelle dans le jeu, et là c'est 4 fois, 5 fois, 10 fois la superficie de Cocoon. Donc il y a encore beaucoup de choses à dévoiler sur Final Fantasy XIII. Et bien sûr, le test sur Gameblog bien avant le 9 mars de la version import. Allez, autre best-of que vous avez sélectionné. Il s'agit d'une belle news. Ça va faire plaisir à Julo et tous ceux qui aiment les jeux de cette veine. Les No More Heroes, arrivent sur Xbox 360 et PS3. Enfin.
Ouais. Alors, No More Heroes, c'est pas vraiment un énorme four commercial, parce qu'il a quand même marchouillé, quoi.
Sur Wii,
Mais voilà, tout à fait. Il est sorti sur Wii. Et c'est donc un jeu de Suda 51, donc à qui on doit notamment Killer7, qui était vraiment génial. Et d'autres jeux un peu plus obscurs, chez nous en tout cas. No More Heroes, c'est un jeu excellent. C'est un jeu d'action complètement débridé, avec un scénar de fou, des personnages vraiment charismatiques, un délire ambiant comme ça. Et puis une ambiance aussi visuelle hyper forte, quoi. Une vraie identité.
Et une vraie patte, ouais.
Une vraie identité. Et puis déjà sur Wii, c'était assez classe, mais c'est vrai que techniquement, notamment quand tu te baladais en ville, c'était des scènes un peu la GTA, tu montais sur ta moto, tu te baladais comme ça, c'était avec un framerate, mais...
trois images secondes.
Voilà, asthmatique, complètement, avec des graphismes vraiment supra pixelisés, etc. Donc, j'accueille chaleureusement cette annonce.
J'accueille.
Il y a une date, on en sait un petit peu plus ?
Alors, ça sortira en début d'année au Japon, sur Xbox 360 et PS3, donc avec des graphismes HD, etc. Après, sur ce qu'il y aura vraiment de plus, il y avait une jouabilité un peu... à la Wiimote, mais encore pas trop, parce que finalement tu faisais juste le dernier slash, parce que tu manies des épées, etc. Le dernier slash en donnant un coup de Wiimote,
ça
sera remplacé. Ça sera remplacé par une histoire de timing, etc. Mais à part ça, on n'en sait vraiment pas plus.
Il y a le mode avec des nouvelles tenues pour les personnages féminins.
Ah oui, il y a des nouvelles tenues. Pardon, j'ai oublié ce détail ultra important.
Non, mais elles sont complètement abusées, complètement en bikini, elles sont complètement perverses. Moi, je les trouve mignonnes.
Bon, en tout cas,
mais moi j'ai un vrai passé.
Perverse et mignonne, donc. Très bien.
Quand c'est de mauvais goût, ça me plaît. Mais ça,
Pia Inside.
Mais il y a vraiment un esprit génial, complètement rock'n'roll dans ce jeu, à l'image de son auteur. Donc heureux qu'on puisse le découvrir ou le redécouvrir comme ça en HD. Voilà.
Et quelque part, on le dit souvent, on espère pour beaucoup de jeux, certains jeux qui n'ont pas connu un grand succès sur la Wii, mais qu'on estime beaucoup, les Muramasa par exemple.
Tout à fait.
Et ben, on espère peut-être qu'un jour ils migreront sur Xbox 360 ou PS3. C'est pas tant
pour
connaître l'histoire graphique,
un plus grand succès.
Leur permettre de toucher un plus large public, parce que
ils le méritent. Dans
les
beaucoup
gamers
de
sont plutôt sur la PS3.
Ouais, parce que le problème c'est pas la Wii, c'est les acheteurs de la Wii, qui sont pas un problème en soi, mais qui sont des gens casual. On entend souvent, notamment nos lecteurs, qui se plaignent sur le forum. Pourquoi est-ce que vous regrettez que tes jeux sortent sur la Wii? Mais c'est pas pour nous, parce que nous on l'a la Wii. Mais c'est juste parce qu'effectivement les gens qui achètent la Wii sont pas intéressés, et les gens qui sont intéressés par ce jeu n'ont pas la Wii.
Quand tu t'appelles pas Nintendo, c'est difficile de connaître le succès sur Wii. Là, ils commencent à le comprendre douloureusement, et voilà quoi.
Ça permettrait comme ça à beaucoup de jeux qui sont des petites pépites ludiques de connaître peut-être, en tout cas une deuxième vie, en tout cas un autre éclairage. Et le quatrième best-of que vous avez choisi, c'est celui de la semaine dernière, de ce samedi. Et ben, je vais pas vous le dire parce que comme de par hasard, il s'agit de l'homme du mois. Sauf que c'est pas l'homme du mois, mais cette semaine, c'est un duo, un homme, une femme, et pourtant, ils ne s'aiment pas. D'un côté du ring, à ma droite, Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille. À ma gauche, Jean-Claude Larue, responsable du sel. Et je vous situe tout de suite, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette polémique, car il s'agit une fois de plus, grâce à Nadine, d'une belle polémique concernant le jeu vidéo et la politique. Je la cite. « On voit beaucoup trop de jeunes avoir accès facilement aux rayons de jeux vidéo les plus violents, les plus dangereux, et qui ne sont pas de leur âge, et passer sans aucune difficulté à une caisse. » Et ça, j'aurais envie de dire, elle a complètement raison.
C'est vrai.
Sauf que derrière, il y a une véritable remise en cause de la norme PEGI, vous savez, ce
qu'elle ignore.
Qu'elle ignore totalement visiblement. Enfin, elle ne l'ignore pas, elle la trouve pas assez forte, puisqu'elle dit qu'elle n'a pas assez de visibilité. Alors qu'on rappelle quand même, c'est un petit macaron de plusieurs centimètres avec des codes couleurs, des chiffres bien marqués. Hein. Plus 3, plus
quand
7,
c'est, voilà,
12,
à partir
16,
de 16,
18.
C'est rouge.
Voilà. On rappelle aussi que c'est des conseils et non pas des interdictions. Ça veut dire qu'effectivement, même si on pourrait se poser la question de savoir si les gens doivent demander leur carte d'identité pour savoir quel âge. C'est juste
légalement, il n'y a pas d'obligation.
Légalement, il n'y a pas d'interdiction.
Comme avec le DVD ou quoi que ce soit.
Et on rappelle, une fois de plus, à l'adresse de Nadine Morano, que regardez les boîtes de DVD des films les plus violents, je pense,
bah
à Saw, par exemple. Eh bien, la mention, si on parle de visibilité, elle n'est pas devant la boîte en jaquette. Donc
comme c'est le cas
tous,
sur le jeu.
Mais derrière, perdue dans toutes les mentions légales, et c'est une toute petite ligne. Avec marqué « Lors de sa sortie, ce film a été jugé inapproprié pour les personnes de moins de 16 ans » ou un truc comme ça. Point. Donc en termes de visibilité, quand même, problème. Et
ça,
donc,
ça choque personne, évidemment.
Et, ouais, et puis surtout qu'elle accusait en plus, non mais en plus elle accusait vraiment les boîtes de jeux vidéo de ne pas indiquer le contenu. Mmh. Alors que vous retournez, surtout que maintenant il y a, plein d'idéogrammes très bien faits avec écrit.
Effectivement,
violence,
est-ce qu'il y a du langage, est-ce qu'il y a de la drogue, est-ce qu'il y a machin.
Sexe, etc. Et ça, elle a quand même osé dire, c'était chez Jean-Jacques Bourdin, elle a quand même osé dire que ça n'existait pas.
Et, ouais. Et justement, du coup, elle parle de tout ça parce qu'elle serait en train de travailler avec une commission dédiée à une nouvelle signalétique, ou en tout cas un changement de cette signalétique. Et là, Jean-Claude Larue, responsable du sel, eh bien sort de ses gonds, hein, littéralement, dans une interview accordée au site technologique. Je cite une fois de plus, « J'entends tellement de conneries. Les politiques prennent les joueurs pour des cons. J'attends qu'ils meurent. » Après une demande écrite de rendez-vous, des dizaines d'appels auprès de son cabinet, donc le cabinet de Nadine Morano, aucune réponse à ce jour. Et malheureusement, je dois avouer que c'est un peu le cas aussi de Gameblog, puisque vous le savez, on avait fait une lettre ouverte adressée à Nadine Morano. On a eu une réponse après des semaines et des mois, une réponse qui s'est conclue alors que la lettre lui a été remise en main propre, par un refus de nous rencontrer, tout simplement, car y a une certaine crainte d'effectivement d'être confronté à des gens qui connaissent bien ce milieu qu'est le jeu vidéo et de ne pas savoir quoi leur répondre.
Et visiblement, elle veut vraiment pas s'éduquer sur le sujet, donc elle peut continuer à dire des conneries une fois de temps en temps, et c'est un petit peu dommageable. Ce qui est surtout problématique, au-delà du fait qu'elle ne sache pas forcément très bien de ce dont elle parle, c'est qu'elle ferme toute possibilité de communication avec des gens qui sont partie prenante de la problématique. Elle refuse purement et simplement d'entendre les acteurs de l'industrie, ce qui est proprement scandaleux, parce que c'est quand même une responsable politique qui est censée représenter la nation et le peuple.
Et la famille en l'occurrence.
Et la famille en l'occurrence, et elle ne cherche pas du tout à entendre la voix de ces gens-là. Donc voilà, moi
oui,
perso...
Parce que
on se rappellera ces merveilleuses photos dans Paris Match.
Ça c'est encore autre chose.
Enfants.
Ça c'est encore la contradiction entre
vois,
ce qu'elle dit qu'il faut faire.
C'est la contradiction totale avec ce qu'elle est en train de dire.
Et
bon,
moi,
elle
j'ai envie de dire
cette...
à Nadine Morano que si il faut montrer aux enfants, parce que c'est ce qu'elle disait par rapport à la photo de GTA 4, vous comprenez.
Soit disant, c'était pour éduquer sa famille.
Dans ce cas-là, montrez-leur des films porno, montrez-leur des viols collectifs pour leur dire qu'il ne faut pas le faire. Bien évidemment qu'on peut montrer sans ce choc des images et que du coup cette photo est quand même assez limite. Et effectivement, comme
sans compter ses sorties contre la et compagnie.
Des vidéos que vous pouvez voir sur YouTube et Dailymotion et compagnie, mais comme le dit Raon, et c'est vrai que ce que dit Jean-Claude Larue, c'est il serait temps quand même que ces politiques qui veulent visiblement s'intéresser aux jeux vidéo, en bien ou en mal, ça c'est encore autre chose, eh bien se rapprochent des compétences.
Je crois pas qu'ils veulent s'y intéresser, ça les intéresse pas vraiment. C'est
des gens qui s'y connaissent et qui peuvent
comme
leur
montrer
les choses.
Comme par hasard, elle fait ses sorties là à l'arrivée de Noël, au moment où t'as un truc comme Modern Warfare 2 qui devient le bien culturel le plus vendu, etc.
Et puis en l'occurrence du début de la campagne européenne.
Bah oui, et puis, évidemment, bien sûr.
Ça parce qu'il lui posait des questions. Hein. Bourdin, il lui posait plein de petites questions. Il a abordé le sujet du jeu vidéo, mais plus pour voir si elle avait avancé dessus par rapport à ses dernières déclarations. Et en fait, elle a été prise en faute parce qu'elle y connaissait rien. Mm-hmm. Mais c'est typique Nadine Morano. Hein, un quart de seconde de silence atterré, genre qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre. Et, mais je suis outrée. Et voilà. Mais c'était vraiment. Il y a même pas d'idée, je pense, derrière ce qu'elle dit. C'était vraiment une façon, une pirouette maladroite pour se sortir d'une interview.
Et alors, je voulais juste rajouter un truc sur les propos de Larue aussi, parce que beaucoup ont pu penser qu'ils étaient particulièrement violents. Et c'est vrai qu'ils sont ils sont pas particulièrement tendres.
Non, ils sont pas très calmes.
Mais quand il dit j'attends qu'il meure, c'est aussi en réaction au fait que justement, il ne peut tellement pas dialoguer avec eux que le seul moyen de faire bouger un peu les choses ou de se faire entendre, c'est peut-être qu'il y a que ces gens-là cèdent leur place. Et
un changement de génération.
Il parle d'un problème générationnel. Et c'est un peu le problème dont on avait parlé aussi pour le jeu vidéo à la télévision, Julien. C'est ça le truc aussi. C'est qu'il faut que les gens qui produisent, les gens qui sélectionnent les programmes, etc. Change.
C'est un vrai problème de génération, de compréhension d'un média et des gens qui, malheureusement, et après des années pourtant à les voir, à les côtoyer parfois, ne veulent juste pas écouter ou entendre. Ils ont des œillères, ils ont des convictions.
Mais par contre, ça leur sert dans leur job, puisque c'est d'un job qu'il s'agit là et non pas d'une responsabilité, ça me paraît clair.
Mais ce que disait Larue aussi, c'est que c'est une mauvaise manœuvre politique.
Mais c'est ça,
bien sûr.
C'est carrément une mauvaise manœuvre politique parce qu'elle croit parler à des gens, à convaincre des gens et en tapant sur le jeu vidéo, s'associer à tout un tas de gens qui vont être d'accord avec elle. Il se trouve que c'est super pas le cas.
Plus de 90% des foyers français ont des jeux vidéo chez eux.
Ils sont concernés. Ils veulent pas entendre, des propos comme ça, absolument pas renseignés. Qui parle de jeux vidéo en mal uniquement comme ça, qui les stigmatise complètement.
Puis, n'oublions pas que les joueurs d'aujourd'hui,
ils ont l'impression qu'on les prend pour
des
cons,
demain, quoi. Et que les gens n'oublient pas.
Ouais. Il faut dire aussi que c'est
n'oublions pas Nadine.
Non.
C'est pas un problème franco-français. Il y a aussi des problèmes chez nos amis belges et nos amis suisses vis-à-vis de ce genre de choses. Je connais évidemment beaucoup moins le détail et tout, mais en tous les cas, on n'est pas les seuls à avoir des problèmes avec nos politiques.
Ceux qui ont le plus de problèmes, c'est quand même les Allemands, notamment, qui n'ont pas les mêmes jeux que nous, parce qu'ils ont quand même un système de censure qui est terrible. Les Australiens aussi, d'ailleurs, je crois. Donc, moi je dirais pas, on n'est quand même pas forcément les plus mal lotis, mais cela dit, il faut quand même clairement faire avancer le débat. Et quand on voit ce genre de choses, c'est atterrant, quoi.
Bah, il n'y a pas de débat, il y a zéro débat.
Parce qu'effectivement, il y a des choses probablement à faire pour informer les gens. On voit qu'encore, par exemple, le contrôle parental est quelque chose d'absolument méconnu.
Bien sûr, il y a un vrai travail d'éducation à faire, on est tous d'accord là-dessus. Seulement, c'est pas son optique à elle. Son optique, c'est pas l'éducation, c'est la répression.
Il y a un site qui a été lancé, Pédagogeux, vous pouvez vous y rendre si vous avez vos parents qui vous posent des questions ou quoi que ce soit.
À l'initiative de l'État, c'est ça qui est dingue aussi. C'est qu'il y a quand même des gens, heureusement d'ailleurs, dans notre gouvernement qui ont des initiatives recevables, quoi.
Enfin voilà, c'était, vous l'avez compris, à la fois la femme du mois, et on aurait préféré néanmoins ne pas en parler, et pourtant c'est un coup de gueule collégial, hein, vraiment de la réaction de Gameblog, mais c'est vraiment important de montrer aussi que le jeu vidéo aujourd'hui est fait avec des gens qui n'ont plus 12 ans, et que désormais notre bouche elle sert aussi à parler et s'exprimer sur des choses qui nous choquent, et là en l'occurrence ce fut le cas. Maintenant, on va passer à nos coups de cœur. C'est absolument catastrophique. Raan, qu'est-ce qui se passe? On va d'ailleurs commencer avec ton coup de cœur. Et pourtant, il est à double lame, double tranchant. C'est le bannissement des tricheurs qui se passe là ces dernières semaines et dans plein de jeux ou consoles différentes.
Oui, alors essentiellement, déjà sur Xbox Live, il y a 1 million de comptes qui ont été bannis. Et puis aussi Infinity Ward qui a pareil aussi... qui est un peu tombé sur les tricheurs en général.
Donc tu fais de la répression un coup de cœur. Que se passe-t-il, Raan ?
Oui, parce que je supporte pas les tricheurs. Ils flinguent simplement le plaisir de millions de personnes juste pour faire
on
les couillons.
On va jamais jouer à Trivial Pursuit ensemble.
Pourquoi tu triches à Trivial Pursuit, c'est ça ?
Toujours. Ah,
d'accord. Non, mais voilà, c'est pénible. C'est une minorité de joueurs qui sont là pour un peu saccager le plaisir des autres juste pour se marrer 2 secondes. Alors c'est vrai que c'est rigolo au début, tu vois. On a tous fait un peu les cons comme ça, à tirer contre ses potes quand on avait du friendly fire d'activer ou ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, quand par contre c'est des parties un peu plus sérieuses en ligne, ça flingue le plaisir de tout le monde et c'est très bien qu'on banne ces gens-là et qu'on les foute dehors, moi je trouve. Voilà.
Est-ce que tu penses que Thierry Henry a encore sa place en équipe de France ?
Très sincèrement, non, on devrait le ban.
Voilà.
Par contre, en équipe de France de basket
ou en handball, il serait très fort. Pia, ton coup de cœur à toi, il est du côté de Facebook. Qu'est-ce qui se passe donc bien ? Facebook qui arrive dans les consoles.
C'est aussi un coup de cœur. Je sais pas s'il est à double tranchant. En fait, j'ai pas su si c'était un coup de cœur ou un coup de gueule. Ah. Mais disons que ça m'a quand même
mis sur le cul.
Excité, ouais. En fait,
ça te fait exciter.
Non, ouais. Ça m'a excité. Non, mais pas.
Tu vois, elle en perd, sa syntaxe.
Mais non, mais c'est l'arrivée de Facebook sur la 360. Dernièrement, je suis complètement accro à Facebook. Et ouais, et je raconte plein de conneries sur mon Facebook. Donc j'étais hyper excité de le voir arriver sur 360. Je trouve ça trop
et
mignon.
Et sur PS3.
Ouais, et sur PS3
et
aussi.
Et sur DS.
Et sur DS. Et je l'utilise sur partout. La DS. Donc je suis vraiment hyper contente. Je prends une photo avec ma DS et je l'envoie sur Facebook. Ce que vous faites déjà avec vos iPhones, mais passons. Sauf que, eh ben, c'était mon coup de cœur. Et puis finalement, dernièrement, c'est en train de devenir une inquiétude. Parce que je trouve que voir toutes les informations sur tous les gens que tu connais sur ton écran en grand, ça te rappelle. Oui, mais ça te rappelle quand même vraiment. On est vachement surveillés. Et... Donc je sais pas.
Et tu la trouves comment l'interface Xbox 360 justement ?
Facebook ? Ah, je la trouve super.
Ah, je la trouve catastrophique moi.
Ah bon ?
Ah, super pas pratique.
Moi, je trouve facile. Tu bouges les
Dieu.
Petits trucs comme ça.
Qu'est-ce
j'ai
que c'est moche
problème.
T'es pas assez pioupiou dans ta tête, Tra.
Ah non, exactement.
C'est peut-être pas Web 2.0 en fait.
Ouais.
Comment ?
T'es pas Web 2.0, c'est tout.
Non, mais bon, autant faire ça sur un PC, quoi, parce que...
Mais non ! Mais non ! L'intérêt... Mais non, l'intérêt, c'est que tout se... Mais non, mais oui, mais l'intérêt, c'est que tout se recoupe, c'est le progrès.
L'intérêt, c'est qu'on soit tous réunis dans ce monde de fous.
Je n'ai rien à rajouter, monsieur l'arbitre. Très bien, très bien. Facebook, danger ou pas, en tout cas, c'était ton coup de cœur de le voir arriver.
Ouais.
Sur les consoles, mais c'est vrai que c'est l'invasion continue, j'ai envie de dire. Julo, ton coup de cœur, lui,
yes.
C'est un bon vieux jeu qui
ouais.
ressort. Et
alors, c'est marrant parce que c'est aussi à double tranchant. Donc, moi, mon coup de cœur, il se passe du côté du c'est les coups de cœur à double tranchant aujourd'hui. Voilà,
moi, je vais être à simple tranchant. Hein,
ah voir, merde, bah t'es viré.
C'est ici que le podcast s'arrête.
Ah bah, on va être mal.
Au revoir.
Donc, ça se passe du côté du PSN pour ma part. Et c'est vrai que je kiffe depuis quelques jours. Là, je rejoue à Metal Gear Solid, le premier, donc qui était sorti sur PS1. Il y a quelques années
que je n'ai jamais fini je
et
précise.
Qui est vraiment exceptionnel je m'en rappelle là à chaque minute que j'y joue c'est vraiment un super jeu et alors d'une manière générale comme ça j'aimerais saluer alors c'est un peu con hein, je fais un peu mon vieux con en ce moment je sais pas pourquoi je rejoue à plein de vieux trucs
c'est l'hiver
mais en tout cas je trouve ça génial parce que je pensais pas que les jeux PS1 pouvaient reprendre vraiment une deuxième vie comme ça ouais. sur PSP c'est vraiment le cas
et je t'appuie Julo je t'appuie
oui je sais parce que tu as téléchargé aussi
Soul River
voilà ouais. qui est
fantastique
mais qui est super joli sur un
c'est
écran de PSP
c'est une beauté hallucinante
vraiment.
C'est le plus beau jeu de toute l'histoire de l'humanité
voilà l'histoire lui donnera raison. En tout cas, Metal Gear Solid, je suis hyper content d'y rejouer. Après avoir été super content de rejouer à FF7, hein, que j'ai toujours pas refini, que j'ai toujours pas fini même d'ailleurs.
Oh, shame.
Et voilà. Fair, hein. Et à double tranchant, pourquoi ? Parce que j'ai redécouvert, moi à l'époque, j'y ai joué en version américaine à Metal Gear Solid, donc avec ces doublages américains,
ouais.
Que étaient de bonne facture, oui,
oui,
en tout cas,
bah, très bien. Oui.
Voilà, très bien. Mm-hmm. Et là, donc, je découvre en fait pour la première fois les doublages.
Fais-moi sentir vivant.
Voilà.
Snake.
Ceci est psychomantis. Voilà.
Colonel, c'est Snake.
Donc c'est exactement ça, mais on exagère à peine et ça donne un côté oui. vraiment nanar au jeu que j'avais pas connu.
Le Three Woman Man Show de Gameblog arrive dans toutes les villes de France en 2011.
Dans toute la France.
Non, c'est catastrophique ce doublage du premier Metal Gear Solid.
Oui, bah, les trades de FF7 français aussi, pareil, hein, parce que moi j'ai
ouais,
pris
mais
FF7
y a pas
aussi.
De doublage, là, et tu peux. Là, vraiment, tu les prends en pleine gueule, quoi. Et dès le début, ouais, ouais. c'est assez terrible parce que je me souviens ne serait-ce que de cette intro de Metal Gear Solid 1 qui était fantastique, là, où t'as la reprise du briefing où tu vois Solid Snake dans son petit sous-marin etc
et là c'est ridicule
et là ça devient ouais ça devient j'étais dégoûté
bah faites voilà. comme moi j'étais sur le PSN US hein.
ouais
c'est
mais j'aurais
fait avec
j'aurais dit mais j'avais complètement oublié qu'il y avait des doublages français bah, ouais. enfin, j'avais joué en américain à l'époque
ce n'est heureusement pas aussi pitoyable que les doublages mythiques de Dynasty Warriors
ah ouais non mais là c'est
nous
drôle.
Sommes attaqués
oui.
Seigneur Liu Bei.
Je ne comprends pas.
Bon,
alors,
qu'est-ce qui se passe dans la province de Chine
bon, bah, je crois qu'il y a un podcast spécial qui se prépare.
C'est ça.
Ouais. Les meilleurs dialogues de.
Non,
de
mais c'est
vidéo.
Vrai, ça c'est pas une bonne
tiens,
idée.
Ouais, dialogue et traduction foireuse.
Il faut retrouver les extraits.
Exactement.
Mais mine de rien, j'y ai pensé il y a pas très longtemps parce que pour faire le test de Runaway 3, j'ai rejoué Runaway 2.
Ouais. Et les doublages étaient.
Et franchement, il y a un moment donné, il y a un dialogue d'un personnage qui s'appelle Archibald.
Ouais.
Putain, mais ils sont mythiques. Mais vraiment mythiques. J'avais complètement oublié. Et franchement, ça fait partie des trucs comme il y avait dans Monkey Island, quoi. C'est extraordinaire.
Et bah d'ailleurs, c'est une belle transition parce que Runaway, nous allons en parler dans quelques instants dans les gros jeux sortis ce mois-ci, pendant le mois de novembre. Et puis, il y en a énormément. Hein. Les Modern Warfare 2, Assassin's Creed 2, les New Super Mario Bros. Wii, Muramasa, Left 4 Dead 2. Resident Evil Dark Side Chronicle, Dawn, Dragon Age, Runaway, il y en a plein d'autres. Mais juste avant, on finit un petit peu les coups de cœur de tout le monde. Justement, Traz, on continue avec toi. Toi, ton coup de cœur, c'est à la fois un peu de la rumeur, mais c'est en train de se préciser. Ça concerne Gran Turismo 5.
Oui, apparemment, enfin même c'est sûr, il sortira au mois de mars au Japon, mars 2010 donc.
Ça on est sûr.
Voilà, et pour l'Europe, on ne sait toujours pas encore, hein. Très honnêtement, on ne va pas s'aventurer à dire qu'il sortira au printemps ou au début de l'été, on ne sait pas encore.
Mm-hmm. Je parie quand même sur une sortie rapide.
Après la version japonaise, oui.
Après,
priori, oui,
après
mais...
l'année fiscale en tout cas.
Voilà. Mais par contre, voilà. Effectivement, l'annonce qu'il y a eu, c'est une certitude, c'est l'éditeur de circuit.
Et ça, c'est hallucinant.
Ça, c'est génial. Donc après, ouais. Les dégâts, effectivement, dans le jeu localisé sur les voitures.
On sur certaines voitures.
Sur certaines voitures, effectivement. On va pouvoir enfin fabriquer des petits circuits avec ces petites mains, là, donc avec un éditeur spécial.
J'imagine pas les circuits fabriqués par Trace.
Et donc,
c'est pas pourquoi. Je suis impatient.
Mais
de voir
à
ça.
Mon avis, ça m'étonnerait qu'on puisse faire des trucs.
Genre des loopings et tout
trop
ça.
Trop olé olé, oui, ça m'étonnerait beaucoup ça. Ça serait rigolo, mais je pense pas.
Mais il y a un truc
à la Trackmania, je pense pas. Ouais.
Mais il y a un truc que je trouve génial dans cet éditeur, c'est qu'il va permettre, parce que de base, il y a 70 circuits à peu près, c'est plusieurs déclinaisons, ouais. Il y a 26 circuits déclinés, etc. Bon, voilà. Mais on pourra aussi reprendre les circuits originaux et les trafiquer. Et ça, c'est génial parce que parfois, ça peut être impressionnant de se dire « Ouh là là, je vais créer un circuit de zéro. » Non, non. Vous prenez votre meilleur circuit, celui que vous préférez dans Gran Turismo, puis vous rajoutez des virages, etc. Et là, c'est durée de vie illimitée.
Ah là, effectivement.
Après, il faudra voir comment ça sera entouré en termes de partage aussi. Comment est-ce qu'on pourra partager nos circuits et tout ça. Est-ce que ça sera bien fait ou pas.
Oui, puis c'est quasiment sûr que ça le sera, puisqu'on voit qu'en plus, ils ont vraiment pris une optique très communautaire. On pourra échanger ses voitures avec la PSP. On pourra balancer ses meilleures vidéos directement sur Facebook sur YouTube. Enfin. Ce Gran Turismo 5, moi je suis pas fanatique de jeux de bagnole, etc. Mais j'avais beaucoup aimé le premier, puis après j'avais un grand trou, un grand passage à vide, machin. Il m'attire vraiment, quoi.
Ah oui, je pense qu'ils ont tout prévu pour que ce soit un gros must. Ils ont pris leur temps, hein, comme un peu d'habitude, oui. Mais là, à mon avis, il y aura des grosses évolutions sur un peu pas mal de choses dans le jeu, niveau gameplay, etc. Donc nous l'attendons avec impatience.
Ils ont été remués, ils avancent enfin, quoi. C'est vrai qu'on va enfin avoir tout ce qu'on réclame depuis des années, quoi.
Peut-être.
Les dégâts. Oui, bah, il y aura les dégâts. On espère une IA améliorée.
Il y a
de
la météo aussi, on sait. Oui,
la
normalement,
la
météo aussi, ouais.
La nuit et tout.
Non, ça va être classe.
La pluie, la neige, les météorites, la fin du monde, 2012, tout ça.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont peut-être gardées et qu'ils vont dévoiler à la toute fin. Blablabla. À suivre, mais ça semble.
Et dans la foulée, un Gran Turismo 6. Déjà, oui, je sais.
Déjà annoncé.
Qui pourra arriver beaucoup plus tôt parce que justement, ils ont tous les outils.
Oui, c'est ce que disait Kazunori.
Finaliser tous les outils pour le 5.
Ouais, méfie-toi, ils ont dit ça pour Shenmue.
C'est vrai qu'ils avaient dit ça aussi. D'accord, ok.
Le moteur a été fait, tout ça, les stars, elles étaient écrites.
Mais il y a peut-être un peu plus de millions de joueurs qui, malheureusement.
Pas du tout.
Ou heureusement.
C'est juste que les gens se prêtaient les jeux, c'est tout
ça.
N'oublie pas que l'histoire de Shenmue se finira avec un jeu.
Avec des jeux.
Et là, tu t'es dit.
Ouais, ou pas.
Allez, mon coup de cœur, moi, c'était le 21 novembre dernier, un fameux samedi soir. On était 4000 tous ensemble à communier dans une grande salle prestigieuse, le Palais des Congrès à Paris. Il s'agissait de la deuxième édition française du Video Games Live. Et franchement, alors, si vous étiez là l'année dernière, il y avait effectivement un petit peu de redite, mais globalement, c'est quand même un événement festif, gamer. C'est de la musique de jeux vidéo avec un orchestre symphonique, ça déchire.
J'ai trouvé ça génial.
Alors toi, c'était ta première fois justement.
Exactement, moi c'était ma première fois, j'étais vierge de tout ça et c'est vrai qu'effectivement j'ai entendu pas mal de gens dire que il y avait certains éléments un peu redits.
Il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires, mais enfin, en tout cas moi ça m'a pas empêché.
Alors déjà,
bon
je
moment.
Tiens à dire que tout ça a commencé avec
un hommage. Avec le petit hommage à Michael Jackson.
Voilà, l'hommage à Michael Jackson qui était. Mais juste à se tordre
avec
de rire.
Le sprite de
en même temps hyper respectueux.
C'était quoi ?
Alors en gros, ils ont.
Le personnage de Moonwalker.
Voilà, c'est le personnage de Moonwalker, le sprite de Moonwalker, donc ce jeu Mega Drive et arcade sorti il y a des années, et qui est utilisé dans tout un tas d'autres décors de jeux, donc Mario, etc. Mais de manière très rigolote, il va faire un Moonwalk, ça va faire apparaître un tuyau de Mario, il va sauter dedans en tournant, en faisant apparaître des étoiles, et puis il va aller dans un truc de Pac-Man. Et c'est comme ça pendant, je sais pas, une dizaine de minutes presque.
Et bien sûr, mis en musique.
Oui. Ah, c'était génial. Franchement, alors ça pouvait pas mieux commencer. Ouais. Et puis par la suite, en fait, moi, tu vois, je savais même pas qu'il y avait un écran qui
passait
des images pendant toute la durée du concert. Je pensais que c'était des petites,
ça m'a
des
surpris
petites
aussi,
scénettes comme ça pendant le concert. Et vraiment, il y avait quelque chose de. Il y avait
de magique,
chose,
tu
de
vois.
Magique, non. Non, mais.
C'est
dit n'importe quoi.
Et le tir au fond.
Et puis aussi, tu sais, ce côté, bon, c'est quand même de la musique symphonique, comme ça, etc. Puis le mec, il te met tout de suite à l'aise. Attendez, les gars, on est entre nous. Si
vous
avez
pouvez
envie de
gueuler, etc.
Parce qu'il y a un truc que vous kiffez. Bah,
ça
allez-y.
Saoule certaines personnes, quand même, qui aimeraient profiter
de la musique. Oui, il y a des gens que nous saluons. avec une grosse claque dans sa gueule. Se reconnaîtra.
Non, le mec il était à fond. C'est vrai qu'on parlait pendant le concert, on avait envie de partager tous ces trucs là. Quand il y a
enfin
eu
bon, si tu as des gens de se taire, dans ce cas là tu te lèves et tu vas sur l'estrade et tu fais bon, vous pouvez pas fermer vos gueules là,
ouais,
parce que tout le monde gueulait quoi. Donc voilà, après,
non, moi j'ai trouvé ça vraiment génial.
C'est une belle communion,
ouais. Et moi en fait,
c'est le terme, c'est ça pour moi.
Ça m'a donné envie de faire venir pour la prochaine édition plein de gens pour qu'ils essaient de comprendre un peu, tu vois, tout un pan de ce qui nous fait triper en fait. Ah bah, dans
justement,
vidéo.
Justement, on a eu la chance de pouvoir rencontrer Monsieur Tommy Tallarico, le co-créateur avec Jack Wall de cet événement.
Le très bondissant Tallarico.
Il y avait aussi Martin Lung, hein, le pianiste du jeu vidéo. Vous avez bien sûr pu le découvrir tout ça dans les vidéos qu'on a fait en Gameloc TV pour ceux qui ont malheureusement pas eu la chance de pouvoir venir. Mais c'est confirmé, c'est une bonne chose. Hein. L'année prochaine, de nouveau, le Video Games Live revient en France. Et pour la petite indiscrétion, a priori, pour l'instant, il se murmurerait qu'il pourrait s'agir d'une tournée française et donc faire partir l'événement de Paris.
En
parce
province,
que c'est vrai
c'est
qu'il y a
ça,
beaucoup de gens qui vivent en province et qui rêveraient de pouvoir voir cet événement. Et c'est vrai que bah, un billet de train, plus l'hôtel, plus machin...
Plus le parking, etc. Oui, ça fait cher.
C'est quand même pas donné. Mais c'est en tout cas, je trouve génial de voir qu'en 2009... surtout que le Video Games Live a réuni déjà depuis, parce que c'est une tournée mondiale, hein, plus de 500 000 de spectateurs, bah que la musique de jeux vidéo est en train de vraiment prendre de l'ampleur et considérée comme un vrai mouvement artistique. Et c'est vrai qu'on a pu voir pour les plus belles d'entre elles en tout cas que c'est magistral. Hein.
Mais surtout comme de la musique, ouais, comme n'importe quel concert en fait. Hein. Mmh. Aussi bien de musique classique de,
mais c'est
de
même plus
riche, concert de Madonna,
plus
etc.
Riche,
bah moi je suis presque d'accord pour dire qu'effectivement c'est plus riche, hein.
Mais il y a des vannes, il y a
c'est un vrai show à l'américaine quoi, c'est,
voilà,
t'es dedans et c'est super complet.
Ouais, avec les excès parfois, il
oui,
un
mais
peu
ça
beaucoup,
c'est rigolo.
Et puis les moments forts, il y a des vraies émotions qu'on ressent parce qu'en plus ça parle directement aux souvenirs de chacun, ça nous interpelle aussi.
Et puis c'est libérateur de voir tous ces gens effectivement communier comme tu
voilà, il y a une communion, ouais.
De réagir au même moment, d'apprécier les mêmes trucs et de quand tu jettes un regard sur la salle, finalement de voir la diversité des gens qui sont là parce que il y avait vraiment des générations différentes, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des plus jeunes,
c'était
des moins jeunes.
Très mélangé.
C'était assez hétéroclite et c'est marrant de les voir tous un peu réagir comme ça.
Et puis voir quand même 4000 personnes applaudir un petit vieillard de 80 piges qui n'est autre que Ralph Baer, l'inventeur du jeu vidéo, qui était là présent via
duplex,
Skype en direct. Je trouve ça génial quoi.
Ah bah oui, c'était fantastique,
c'était
super. Un grand moment et ça c'était pas là l'année dernière ça.
Ça c'était excellent. Puis
plein de petites touches rigolotes là, de mise en scène pendant Halo, le Master Chief qui passe pendant Metal Gear, le mec qui passe et puis d'un seul
dévoile
coup,
pas tout
le...
parce que ceux qui l'ont pas vu
il faut faire un DVD de ce truc, moi je pense, voilà, pour découvrir tout ça.
Et ben voilà, c'était mon coup de cœur à simple tranchant, mais qui était vraiment chouette. Et moi, ça me rappelle l'époque de Zigpad sur Joypad, et même de la Zigzone à Game One, où je parlais avec passion de musique de jeux vidéo, et de voir, et à chaque fois on prenait comme un extraterrestre, bah de voir que voilà, aujourd'hui, ça commence à rassembler un peu des gens, que c'est pas un truc de geek ultime, et qu'on peut arriver à un concert sympa et prendre.
Et c'est pas honteux d'avoir enregistré des cassettes au cul de nos consoles, voilà.
Voilà, donc on vous rappelle aussi, pour ceux qui n'ont pas entendu le podcast 119, je crois, hein, qu'on avait dédié aux musiques de jeux vidéo avec plein d'extraits de musique et un petit peu nos préférés. Et puis un grand merci encore à ceux qu'on a pu croiser au Video Games Live. Hein.
Ouais.
Et j'en remercie un plus chaleureusement, celui qui m'a offert ma Game Boy. Et je suis trop content et vraiment, je la regarde. Elle est sur mon bureau, je la vois tous les jours. Un grand merci à toi, mec, vraiment. Allez, on va passer maintenant au coup de gueule, car il est temps de faire
parler la poudre.
Voilà, merci. Les coups de gueule, mesdames et mesdames. Eh bien, on va commencer avec toi, Pia.
Pia,
assez particulier. Vous allez voir, ça concerne Alan Wake.
Ah oui.
Mais ça concerne en fait un peu les journalistes. Le lien entre les journalistes et les développeurs.
Voilà.
Que se passe-t-il ?
En fait, Alan Wake, moi, c'est un jeu que j'attends de longue date. Puisque, bon, le
tu veux
le
dire, il y a
5
ans, c'est ça ?
Voilà, ben oui, le pitch me plaisait, les premières images qu'on voyait me plaisaient. Oui, donc c'est l'histoire de cet écrivain, hein, qui arrive dans un petit village, a priori, ou dans une petite ville des États-Unis perdue. Puis pendant longtemps, on ne savait pas très bien à quoi s'attendre, un jeu d'aventure, un jeu d'action, etc. A priori, d'après les dernières images qu'on a vues, ce serait une sorte de survival, un petit peu action, mais bon, on est
action,
un petit
recherche,
peu... Ouais, voilà, même si on était un petit peu inquiet, enfin moi en tout cas, dès que j'ai vu les fantômes, j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu. Bon, on va voir ce que ça va donner. Disons que pour moi, la thématique de l'écrivain me plaît beaucoup.
Bon,
voilà.
Alors, les trucs que j'ai vus à l'E3 en Behind Closed Door, c'est vraiment chouette,
ambiance,
c'est vivant, il y a une ambiance incroyable. La bande-son, elle déchire, il se passe des trucs genre au fin fond de l'écran avec des forêts entières qui disparaissent, on entend des cris et tout, on est complètement immergé.
Le pitch est génial. Il faut rappeler le pitch, parce
voilà,
que
le
c'est
pitch,
pas juste un écrivain.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais.
Bah vas-y, alors rappelle le pitch, Julo.
Non, mais alors en fait, il arrive dans cet endroit-là, je crois qu'il est en panne d'inspiration, et il se rend compte en fait qu'il trouve des éléments du livre qu'il aurait écrit voilà. Et il a absolument aucun souvenir de l'avoir fait, etc. Donc il doit y avoir une espèce de faille spatio-temporelle, je sais pas, il y a un truc chelou, quoi. Et
ça me fait un petit peu penser à l'entre de la folie.
Oh, c'est ce que j'allais dire, c'est l'entre de la folie.
J'aime bien tous ces trucs un peu, ces tripes d'aliénation comme ça.
Crash de réalité.
Voilà, tu sais plus où t'en es, etc. J'adore, c'est du Kafka.
Et on sait que Remedy, ils sont forts pour en matière de narration.
Max Payne.
Ouais, voilà.
Alors moi, mon coup de gueule, ce serait que ce soit plus un jeu d'action. Moi, je m'attendais vraiment à un truc aventure et tout. Ça me fait un peu peur, franchement.
Ça te fait un peu flipper. Voilà, bon,
d'accord. C'est découpé en épisodes, à l'image d'une série. C'est-à-dire qu'on va avoir des grands chapitres, etc., avec un coming next et tout. Et c'est là où ça t'embête un petit peu plus, parce qu'à la fin, le tout dernier épisode,
en fait, ils veulent le tronquer pour la version review qu'ils vont envoyer à la presse. Disons que c'est pas cette seule annonce là qui m'a un petit peu agacée.
Enfin, quand tu dis tronquer, c'est qu'en gros la presse n'aura pas la fin
du jeu. La presse n'aura pas la fin du jeu.
Pour ne pas faire de spoil.
C'est plus entre guillemets généraliste que ça, puisqu'ils ont effectivement parlé de tronquer, mais d'une façon globale, ils se posent encore la question des éléments de scénario qu'ils vont donner ou pas. Ça veut dire que peut-être que ça ne concernera pas que la fin, t'imagines. Donc moi, je pense que dans un jeu où la narration elle est aussi importante, si on nous file pas l'histoire, je vois pas comment je vais faire le test. En plus de ça,
j'en recommande déjà tout de suite. Tu vas taper le test. Oh, comme c'était habile. Oh là 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 là.
Vous vous en rappellerez.
Quel
quand
génie,
je ferai le
quel
test.
Génie. Non, bien, pas mal, bien essayé.
Ouais, dis donc. Bref, donc voilà, moi ça m'agace parce que les journalistes, on est quand même actuellement les journalistes de la presse P, c'est nous qui parlons des jeux. En bien ou en mal.
Non, mais c'est surtout qu'il existe des journalistes qui savent ne pas spoiler.
Oui,
ou
on
n'est
pas,
pas
tous
spoiler.
Des débiles, quoi.
C'est pas parce qu'on a la fin qu'on va la raconter.
Voilà.
C'est là où ça me frustre. Parce
et donc, moi, ça m'agace.
Là, on vient d'annihiler la chute de ce coup de gueule. Parce que moi, j'allais dire, mais c'est pas un problème pour toi, Pia. C'est pas toi qui feras le test.
Ah non,
donc,
je suis pas
d'accord. Tu pourras pas le voir, tu feras la version
de
la
vidéo. Il avait sa vanne toute prête.
Non, vraiment, le concept de l'écrivain, ça me parle vraiment énormément. J'aimerais bien voir le test.
On en rediscutera.
On en discutera. Vu comment ça négocie pour un podcast.
C'est grave.
C'est du beau.
Tu prends en otage tous les auditeurs de Gameblog et tout.
C'est ça.
Ça ne marchera pas, Pia. Ça ne changera rien.
Dans le forum, votez.
Tapez 1 si vous souhaitez que j'ai le test de Alan Wake.
En plus,
je compte sur vous. Me lâchez pas.
C'est dégueulasse parce que c'est vrai que quand on fait, vous savez que ces identités sur Xbox, on peut pas reprendre sa sauvegarde avec la version retail après, etc. On est obligé de tout recommencer les jeux à chaque fois.
Oui,
oui, il faut
ce qui explique, et je tiens à le dire, pourquoi nous avons si peu de points pour tous les lecteurs qui nous suivent.
Voilà.
Et
c'est horrible.
Ce sera la mise
au
point.
Il y a ça, et puis aussi on joue sur PS3 aussi, les gars. Donc,
on joue sur Wii, on fait des tests sur plein de versions.
Mais attends, il faut expliquer parce qu'il y a des gens qui
ne comprennent pas. Donc on commence.
Quand on reçoit les versions, c'est des versions qui tourne sur des machines spéciales qui s'appellent les machines debug et donc on fait les jeux et on les finit sur des machines qui sont pas les nôtres, qui sont pas celles qu'on a chez nous à la maison et qui sont des Xbox comme n'importe qui, celles qu'on a à la maison et celles qui sont au boulot sont différentes. Voilà, donc on peut pas garder nos sauvegardes d'une version à
et donc nos succès et donc nos points
et souvent on finit donc en gros on finit les jeux et on donc, a tous les succès sur une version review qui n'est pas compatible.
C'est hyper frustrant.
Et donc on a l'impression
qui n'est même pas sur le même réseau.
Non mais c'est ça.
Donc ne vous inquiétez pas, on joue des fois aussi. En fait,
non, mais on se retrouve dans des situations hallucinantes où mon mari il a plus de points que moi.
Ah oui. Oui, Trace vient d'essayer d'imiter Pia avec brio d'ailleurs. Et puis, voilà.
Néanmoins, on a compris ton message,
merci.
Pia. Mais néanmoins, ton sort est quand même entre les mains maintenant des internautes de Gameblog.fr.
Ne me lâchez
un,
pas.
Pour le test de Pia. 2.
Ah, mais ça change rien. Même s'ils votent massivement 1.
De toute façon, le jeu est trop dur, t'auras jamais vu la fin, laisse tomber.
Bon, allez, on va enchaîner après ces grandes digressions. Julo, on continue. Ton coup de gueule, ton coup de gueule, c'est la VOD sur console et notamment sur PlayStation 3.
C'est un mini coup de gueule, quoi.
Ah,
disons
la VOD.
Non, alors c'est vrai que la VOD, c'est génial.
Bah oui.
C'est ton coup de gueule, hein, rappel.
Ouais. Attendez, vous voulez que je m'arrête là ?
Vas-y, à fond.
Moi, je trouve ça...
Donc la VOD c'est génial. Le concept, déjà tu payes moins cher. C'est vrai que t'as pas envie d'acheter les DVD de tous les films que t'as envie de voir.
Ouais, c'est ça.
Et encore moins les Blu-ray parce que c'est encore plus cher. En même temps, je suis pas un grand bourgeois, mais je viens de passer au 5.1, n'est-ce pas ?
Le bourgeois, alors, donc, ça m'énerve ça.
Deux choses. D'abord, les jeux, les films, pardon, ne sont disponibles qu'en français.
Oui, ça c'est dommage.
Alors ça, je suis désolé.
Non, je précise, je joue en français canadien.
Ah, pour certains.
C'est horrible. Ouais, mais horrible. Jamais.
Comme à l'époque, on achetait les DVD aux nains.
Mais tu pas tous, hein. Il y a des français ouais. aussi français et français. Hein.
Ouais. Oui. Bah alors,
ça dépend lesquels. Mais il y a pas de VO sous-titré en tout cas.
Donc en fait, alors il y a plusieurs coups de gueule comme ça. D'abord, effectivement, c'est que de la VF ou de la VC. De chiotte. Donc et donc ça, ça craint. C'est chiant. En plus, donc pour mon 5 points, ils ne sont diffusés qu'en 2.0.
Un achat judicieux, donc.
Donc c'est relou aussi. C'est disponible que 24 heures. Bon, ça.
Bah,
bon,
ça, d'accord. C'est le principe de la location.
Mais le problème. Alors, le problème, ça dépend des services. De la Xbox et de la PS3. Non, c'est 48. 48. Pardon, excuse-moi. 48. Alors, 48.
Enfin, c'est 14 jours et à partir du moment où tu as voilà. commencé à le regarder, ouais, tu n'as plus que 48 heures.
Sauf que, alors moi je l'ai utilisé sur Xbox. Alors je sais pas s'ils ont des meilleures technologies sur Xbox 360, pardon.
Je resiste juste pourquoi on parle de VOD maintenant. C'est parce que le service vient d'arriver sur PlayStation
3. Sur PS3,
3,
voilà. Alors voilà, justement, moi j'avais déjà essayé. J'avais déjà essayé sur Xbox 360 et ils doivent avoir une meilleure technologie de. Comment on appelle ça de
compression et ou
de streaming.
De streaming. Et ils doivent avoir une meilleure technologie de streaming parce que, effectivement, tu achètes le film, tu attends ça. Que je sais pas 10 minutes ça dépend de la connexion tu lances le film et t'es peinard tu le regardes moi j'ai essayé sur PS3 là et alors je pense que leur technologie de streaming a un vrai problème parce que j'ai dû attendre des heures quoi et avant de pouvoir regarder le film tranquillement sans qu'il soit coupé etc.
C'est là où j'interviens parce que ce week-end j'ai regardé moi aussi de la VOD sur PS3 et c'est vrai que il m'est arrivé sur Xbox 360 d'avoir des délais infimes genre de l'ordre de moins d'une minute avant que le film se lance, c'est très bien, en HD, machin. Et l'inverse aussi est très vrai, c'est-à-dire le film qui se lance pas avant 3 heures, alors que pourtant...
C'est déjà sur Xbox ?
Oui, sur Xbox aussi.
D'accord.
Et là, j'ai lancé un film, effectivement, en SD, mais qui pèse quand même genre 3 gigas.
Ah oui, mais en SD, c'est immédiat.
Non, ça fait 3 gigas quand même. Il y a des films HD qui font 3 gigas. Il n'y a pas eu de soucis.
En SD, il n'y a aucun problème.
Qui compte on s'en fout, c'est du stream.
Il n'y a aucun problème. Sur, côté en SD, ça part tout seul, machin, etc. Mais putain, j'ai quand même une connexion de 30 mégas, quoi.
À la fois,
mon film, j'ai pas pu le lancer.
Mais je trouve, en tout cas, juste pour nuancer un tout petit peu ce truc-là, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup plus de films, néanmoins, sur
PS3. Ah ouais, alors par contre, ça, c'est clair. Sur PS3, il y a un catalogue de ouf.
Quasiment 400.
Ouais. 297,
non,
dernière nouvelle. Ah, ça, ils en ont.
Non, mais ils n'arrêtent pas d'en rajouter. D'accord. En plus. Donc, ils ont un vrai. La PS3 a vraiment l'avantage du catalogue.
Oui, je suis pas d'accord. Là, il n'y a
par
pas photo.
Contre, la 360 a l'avantage de la technologie, c'est-à-dire du streaming. Quoi. Donc,
c'est vrai, parce que même moi, en Wi-Fi.
Donc, j'arrive pas à faire mon choix.
J'y arrive.
Au final, et je vais quand même.
Fois tu as les deux consoles, espèce de sale bourgeois, et
5.1,
tu n'as pas
télé-HD.
À avoir à faire le choix.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que, en tout cas, on demande.
Ah, j'aimerais bien que ça marche mieux, quoi.
Bah, on aimerait surtout qu'il y ait vraiment la VO sous-titrée.
La VO sous-titrée.
Vrai. Et que effectivement,
la vraie
ça
VO,
vite,
la vraie VO.
C'est clairement l'avenir, néanmoins.
C'est génial, ouais, c'est génial.
Et ça permet de faire en sorte que les consoles soient plus que des simples consoles. Là, clairement, on commence à le ressentir vraiment cette convergence depuis des années et des années. Elle se concrétise dans notre salon maintenant. La guerre du salon, elle commence en fait finalement. Maintenant.
Ça pourrait être bien d'avoir d'ailleurs des jeux à louer, je suis en train de me dire. Vraiment.
Bah ça existe. Hein.
À louer ?
Ouais.
Bah, pas sur les consoles.
Pas non. Sur console pour l'instant. Non, si ça existe sur PC, c'est que ça arrivera bientôt.
Ouais, bien sûr.
Puis les services on live, c'est un peu ça. Puis c'est
un
des
peu ça.
Jeux console. Ça va arriver, très clairement. Traz, ton coup de gueule. Il s'agit d'un download content déguisé. De quoi s'agit-il ?
Voilà, de Super Street Fighter 4, donc, qu'on nous promet extraordinaire, avec des nouveaux personnages. Mais pourquoi ressortir ce jeu-là en version boîte complète alors que ça pourrait faire
vraiment qu'on te dise pourquoi
un DLC tout simple.
Est-ce bien nécessaire ?
Ça m'énerve. Oui, bah je me doute qu'effectivement voilà.
En
quoi.
Plus, ça dit vaguement quelque chose en plus. Hein.
Légèrement, ouais. Donc c'est un peu énervant quoi. Il y en a marre que des gens tirent un peu trop sur la corde, en profitent.
Bah c'est surtout qu'il a été annoncé
parce
tellement
que le jeu
vite après la sortie du premier.
Voilà.
Si nous l'avions sorti dans un an, bon alors là ouais, on aurait peut-être digéré plus facilement, mais bon.
Oui, mais tu sais bien qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, donc forcément.
Ouais.
Bah on profite de la notoriété du jeu, de sa.
Et le pire c'est que ça marche parce qu'en même temps quand tu vois.
Sa qualité aussi, il est bien le jeu, il y a pas de souci. Et puis il y a une communauté énorme autour de ce truc-là, donc voilà.
J'ai envie de l'acheter, moi ça me rend dingue.
Bah voilà, tu vois, t'es tombé dans le panneau du marketing.
Comme un gros con qui a racheté Assassin's Creed 1 en dématérialisé. Enfin bref.
Voilà, donc c'était mon coup de gueule à 2 heures.
Il sent douce rire.
À 2 cents.
C'est celui de Julio.
Je tiens à préciser que c'est celui de Julio pour une fois.
En tout cas, c'était ton coup de gueule, Traz.
Oui, tout à fait, voilà, j'ai fini, vous pouvez continuer.
Super Street Fighter 4 qui sortira en 2010, mais effectivement, est-ce que c'est pas du download content ? Est-ce qu'on ne vous franque pas un truc à 70€ qui
On verra s'il rajoute autre chose.
Pour coûter 5€, quoi.
Peut-être pas quand même, mais
à noter que quand même pour Resident Evil, À noter que en Europe, ça sera un DLC et non un jeu que tu devras acheter
pour Resident Evil 5, Gold Edition.
Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Où a priori, il n'y aura pas un seul scénario, mais il y en a un deuxième qui est en train de se profiler. Ton coup de cœur, toi, Raon, il concerne Uncharted 2. Et généralement, on en parle plutôt en bien. Mais là, pourquoi un coup de gueule?
Je me souviens plus en fait sur Uncharted 2.
Ben si.
Ah si,
tu veux que je te rappelle
un coup de gueule? Oui, si, si, bien sûr. Si. Oh, bien joué.
Moi, je pose plein de
questions.
Non, mais
t'as commencé en disant
mais...
un coup de cœur, non?
Non, j'ai dit coup de gueule.
Ah bon? Bon,
j'ai mal. Là...
Oui, oui, là c'est un coup de. Enfin, c'est encore une fois un micro coup de gueule en fait aussi. C'est que je trouve ça vraiment dommage qu'un jeu de cette qualité qui a vraiment fait autant l'unanimité finalement échoue apparemment à. C'est pas qu'il s'est mal vendu, hein.
1,4 million de ventes après plus d'un mois.
Mais tout est relatif. C'est peanuts par rapport à la qualité du jeu,
le
quoi.
Le premier s'est vendu à 2,7 millions d'exemplaires, donc on est à peu près à la moitié, mais c'est vrai que ça a énormément ralenti là.
Alors,
parce que les grosses des ventes se font au début. Alors il y a Noël
voilà,
qui arrive.
Encore
mais...
une fois, voilà, on va attendre Noël, on verra ce que Noël va apporter à cette balance là, mais pour l'instant.
C'est pas très bien engagé.
Pour un jeu qui est sorti le 14 octobre. Ouais. Je trouve ça vraiment mais enfin en fait je m'interroge, je comprends pas pourquoi parce que c'est pas comme s'il y avait un véritable déficit hallucinant de PS3
ouais,
dans le monde.
Je pense marketing. Ouais. Mais est-ce que... as pas entendu parler dans les grands réseaux de distribution où les pubs à la télé étaient obscures et un mois avant pour moi une fois de plus il y a un problème de placement.
C'est probablement ça, en tous les cas ça rentre en compte, c'est sûr.
Toutes les ventes sont comptabilisées, même dans les versions boîte PS3, en bundle, etc.
Avec la console, avec le pack, j'imagine
c'est que.
C'est que
les jeux
uniques. Ça, je ne saurais pas dire. Mais
c'était vérifié, mais c'est vrai que moi j'ai été en plus un peu
mais
surpris.
Même en doublant ce chiffre, c'est encore faible par rapport à la qualité du jeu.
C'est très étonnant. Hein, parce que...
les gros jeux, les gros blockbusters, normalement, on pense à des Gears of War, des Halo, etc. Ils font la première ou deuxième semaine, ils arrivent à 3, 4 millions.
Mais il y en a qui en
Modern Warfare, une semaine, c'est 5 millions.
Il y en a qui en Day One font ça.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est peut-être Modern Warfare 2 qui l'a tué, hein, tout simplement. Modern Warfare 2, on en parle depuis un an.
Enfin, il est quand même sorti vachement.
Bah ouais.
Donc forcément,
c'est un jeu
à un moment.
Il est sorti le 10 novembre, Modern Warfare 2. Uncharted est sorti un peu plus d'un mois avant.
Tout le monde en a parlé bien plus qu'Uncharted 2. Quoi.
Ou bien, ne nous voilons peut-être pas la face. Peut-être que c'est un genre action-aventure qui a du mal à prendre.
Peut-être que c'est l'univers qui charme pas. Peut-être qu'il y a un déficit d'affect par rapport à.
Au personnage aussi, peut-être.
Peut-être, alors, mais en tous les cas,
mais
ce serait dommage.
Mais ce qui est dingue, c'est que tous ceux qui voient le jeu,
ils
l'aiment tout de suite, quoi.
Bien sûr.
Tout de suite envie de regarder quelqu'un jouer ou d'y jouer, évidemment.
C'est un des consensus de l'année, quoi, globalement, au niveau critique et tout.
A priori. Donc,
ça n'empêchera pas qu'il y aura un 3. Hein,
voilà,
mais
c'est
bon.
Ça. Bah, à suivre donc de près, c'est clairement pas un échec, hein, mais c'est vrai que c'est pas un grand succès. Et est-ce que ça pose aussi la question à savoir est-ce que les jeux exclusifs PS3 arrivent vraiment à trouver le succès des jeux exclusifs Xbox 360 qui eux, les Halo, parce que Halo ODST, Halo 3 ODST qui
ça
est sorti,
cartonne.
Ça cartonne, hein, c'est quasiment clair, 4 millions d'exemplaires déjà vendus dans le monde. Alors que bon, enfin ça c'est personnel,
mais
Gears of War,
c'est un jeu qui ne vaut
clairement
pas Uncharted 2, c'est sûr.
Enfin voilà, les grosses licences Xbox se sont très bien installées. Killzone 2 par exemple, on sait que ça a fait n'est pas rentable, très clairement. Enfin bon.
Ou alors peut-être que la bêta multi a pas forcément plu et ils se sont dit bon non, ça m'intéresse pas d'acheter ce jeu-là pour le multi. Ouais.
C'est un grand mystère. Si vous avez la réponse, Nostradamus, répondez-nous.
Bon, t'as sûrement, le coup du marketing, c'est probablement une grosse part de la raison.
Allez, mon coup de gueule perso, moi je l'adresse au piratage. En règle générale, ça c'est pas nouveau. Je n'aime pas ça. Pour moi, quand on aime, on achète, ou sinon ça s'appelle du vol, tout simplement. Quand on rentre dans une boulangerie et qu'on veut du pain, on l'achète. Hein, on braque pas un flingue sur la commerçante ou on n'essaye pas de le chourer en loose day. Et si on parle de piratage, c'est un peu pour le cri du cœur qu'a lancé Pasta Games, les développeurs de Maestro Jump in Music. Eux, ils sont tout petits, ils ont fait un jeu qui est peut-être pas le meilleur jeu de l'humanité, mais en tout cas, ils souffrent terriblement du piratage à l'image de tous les petits éditeurs. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire « Oui, mais c'est pas grave, on pirate, mais de toute manière, les gros, les Ubisoft, les Electronic Arts, les Konami, etc., les Sony, ils se font plein de thunes, c'est pas grave. » Oui, ces gros-là, quand il y a 100 000 personnes qui piratent leur jeu, qui ne l'achètent pas, c'est du vraiment qu'à gagner, hein. C'est pas vachement mieux pour eux non plus, mais ça ne les tue pas. Mais par contre, les petits, c'est fini. Tout simplement, il n'y a pas de deuxième jeu derrière, il n'y a pas de troisième jeu, il n'y a pas de suite où ça les oblige, eux, à faire des petits jeux, des portages voilà. sous-traités.
Des jeux de bébés. Voilà.
Mais alors, surtout que si je dis pas de bêtises, ils ont fait beaucoup de jeux de commandes, entre guillemets, etc. Là, c'est le premier jeu qui s'autofinance, etc. Donc c'est...
Bah, c'est pour ça que c'est un coup dur pour eux et c'est pour ça qu'ils ont écrit le truc. Et ce qu'ils disaient, bon, la lettre, est, on a passé l'intégralité
Fabien de
la lettre.
Fabien de Pasta Games.
Voilà, de Fabien et de l'équipe de Pasta Games sur Gameblog, donc vous pourrez la trouver. Mais je trouve que ce qu'il faut retenir, à mon avis sur cette lettre là c'est la fin qui dit même si vous avez piraté le jeu vous pouvez avoir la sensation que le racheter ça va pas servir beaucoup parce que vous allez acheter quelque chose que vous avez déjà joué, mais en fait ce que vous achetez c'est le prochain jeu qu'on va faire. Voilà, c'est comment est-ce qu'on peut financer le jeu d'après, bah, c'est en achetant le jeu de maintenant
et surtout faire des jeux maison pour eux et non pas effectivement comme dit Julo des commandes pour tel et tel éditeur qui les intéresse moyennement parce que c'est juste alimentaire quoi.
C'est triste à dire, mais bien évidemment
si on veut de la créativité etc.,
ce sera très difficile d'enrayer le piratage. Ça rentre dans les habitudes des gens etc. Qui n'a pas piraté, enfin même moi j'ai déjà chopé de la musique etc. bien évidemment, mais en revanche je pense vraiment qu'à partir du moment où on aime ce qu'on a piraté, on se doit d'avoir cette démarche honnête de se dire bah je le paye, je le rachète en vrai ou en download, enfin en dématérialisé ou quoi que ce soit, mais pour tout simplement aider la création. C'est pas parce que c'est numérique et qu'on n'a pas la personne en face de soi qu'il faut se permettre de faire n'importe quoi. Ça fait un peu moralisateur et ce que vous voulez, mais je le pense fondamentalement. Y a des gens derrière qui bossent, il y a des gens, là on parle de Pasta Game mais de 12 000 autres développeurs.
Bah, moi je pense aussi à 2D Boy avec World of Goo, ils s'en sont mieux sortis parce qu'ils ont réussi à faire des choses derrière et à reproposer le jeu et à le vendre correctement. Mais quand ils ont sorti le jeu sur PC à la base, avant qu'il sorte sur plateforme WiiWare et compagnie, c'est 90% de piratage pour un jeu qui est excellent et deux mecs voilà, qui ont fait ce qu'ils avaient envie de faire.
Oui, parce qu'effectivement, ceux qui piratent, ils peuvent très bien se dire pour les gros jeux des gros studios, ça leur fera pas trop de mal de toute façon.
Ouais,
ils sont
et encore,
des
c'est
pognons,
très discutable.
C'est pas très grave. Mais par contre, effectivement, là, le préjudice, il est énormissime pour un éditeur.
Mais même
un
pour des éditeurs moyens. Même pour un. Moi,
oui,
je pense
bien
à Eidos,
hein,
par exemple, déjà à l'époque d'un Deus Ex qui est un jeu extraordinaire que tout le monde salue, qui a été à l'époque extraordinairement piraté sur PC. Il a jamais été rentable, donc ils ont dû se concentrer sur la console. Du coup, ils ont aussi dénaturé la formule originale. Enfin bref, ça a des vraies répercussions à force, même chez les moyens et chez les plus gros. C'est ce qui fait aussi que les jeux d'aujourd'hui sont les jeux d'aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont la conséquence directe de jeux avec des game design plus ambitieux, mais
exactement,
qui ne sont pas achetés, qui sont piratés. Donc c'est un peu con.
Je suis complètement d'accord. Il faut juste avoir le courage de ses propos. Et quand on entend beaucoup de personnes vouloir des jeux originaux, vouloir des jeux différents, et ben si on ne les achète pas, mais tous ensemble, là, on n'est pas là pour faire l'éducation ou quoi que ce soit, mais si les gens qui veulent ça ne l'achètent pas, il n'y aura plus que des gros blusters très stéréotypés, parce que ceux-là marcheront, parce qu'ils fonctionneront
sur un
large
public qui ne sait pas pirater,
mais qui sait pas pirater et qui n'a pas envie de se prendre la tête avec ça, et puis c'est tout. Voilà. Donc ayons le courage des choses qu'on souhaite, et quand on aime, eh ben on dépense, mine de rien. C'est comme ça que la société existe aussi. Hein. Si chacun gagne de l'argent, c'est aussi pour savoir le dépenser, bordel de merde. Et pas juste pour des trucs où on mange et on s'habille. Oh.
Donc, quoique l'habillage, d'après Pia, est très important.
Et Piu. T'as pris Piu.
Voilà, après ce coup de gueule, eh bien, on va passer au gros jeu sorti ce mois de novembre.
Oh non.
Et Dieu sait qu'il y en a eu. On va commencer, eh ben justement, allez, un coup de cœur, Muramasa, Julo.
Muramasa, achetez Muramasa.
Mais oui, c'est sorti sur
vite,
Wii.
Vite, tout de suite.
Et on dit il y a pas de jeu de gamer, etc. Et tout. Là, il y en a un.
Il y en a un.
Il est réussi. Bah, si vous avez une Wii.
Complètement. C'est clairement. Alors c'est old school. Hein. En même temps, on va pas ordonner aux gens d'aller l'acheter parce que on n'est pas forcément, on adhère pas forcément au trip un peu old school parce que c'est vraiment old school.
Très old school. Ouais.
Très old school, tu vois, par exemple Traz qui respecte le jeu.
Je suis chaud parce que chaque fois que tu parles de ce jeu là, je m'immisce.
Mais oui, mais je comprends, tu as le droit de pas aimer ça. Mais c'est un jeu magnifique d'abord, qui est délicieusement pour ma part old school, avec un bon système, voilà, une vraie atmosphère, une personnalité, et puis voilà, un côté vraiment unique. Donc voilà, je le recommande fortement. Voilà.
Très bien, un autre jeu qui peut-être là être un petit peu plus contrasté, Pia, mais on reste sur la Wii, il s'agit de Resident Evil The Dark Side Chronicles. T'as été un petit peu déçu, hein, mais ouais, c'est probablement quand même beaucoup mieux que le premier épisode d'Umbrella Chronicles qui était pathétique.
Ouais, le premier était vraiment mauvais, il était vraiment mou, il y avait
pathétique,
bon, il y avait
mais
vraiment,
presque.
Ouais, il est vraiment catastrophique. Le deuxième est mieux, il est mieux mis en scène, il fait plus peur, etc. Voilà, il est beaucoup plus inspiré des House of the Dead pour ceux qui connaissaient. Donc il est mieux, mais il est encore pas excellent. Dans le même genre, il faut quand même le préférer Dead Space Extraction. Et de façon générale, j'ai quand même envie de dire aux gens qui disent ouais, mais c'est quand même Resident Evil, alors c'est pas mal, j'achète. C'est pas parce qu'on aime un truc qu'on va le prendre en version bas de gamme. Si on aime Resident Evil, je pense qu'il faut qu'on arrive à. Je pense qu'il faut qu'on condamne un peu les sous-produits de cette série qui était quand même fantastique il fut un temps, puis là qui est vraiment en, vraiment
en
dégénérescence.
Hein. Ouais.
Ouais, et là c'est pas bien. Moi je suis pas contente après Capcom.
On se zombifie un peu là. On est assez, on est assez d'accord.
C'était mauvais.
Ah bah écoute, on va rester avec les zombies en tout cas si ça ne vous dérange pas, mais cette fois-ci plutôt du côté de la Xbox 360, PS3 et PC avec Left 4 Dead 2 qui est sorti ce mois-ci. Qui veut nous en parler, Julo? Ouais. Toi, tu l'attendais pas.
Alors,
mal.
Alors, c'est pas PS3, hein. C'est uniquement
Xbox
360
et PC.
Et PC.
Autant pour moi.
Parce que Valve a un problème avec la PS3. Ouais. Comme,
oui, c'est vrai.
Bah, le problème est simple, c'est qu'ils ne peuvent pas la saquer.
Ouais, voilà.
Ça les emmerde de développer là-dessus.
Ouais, c'est ouais, compliqué. Ouais, ils veulent être rentables tout de suite, pas dans 6 mois.
Alors, il y a toute une polémique autour de Left 4 Dead parce que c'est plus un add-on qu'un véritable deuxième épisode et donc les fans. Du premier en veulent beaucoup à Valve qui avait annoncé
soutenir
le premier avec voilà, dans le temps plein de choses nouvelles, etc. Et là ils te sortent un 2 que tu es obligé de racheter du coup, etc. Moi perso j'avais pas joué au premier, d'ailleurs j'ai le regretté, et donc j'étais très content de voir le deuxième sortir. Et puis j'ai eu l'occasion de faire quelques parties, hein, c'est pas moi qui l'ai testé, mais j'ai adoré quoi, parce que c'est un trip multi tellement efficace, tellement bien fait.
Non mais c'est un très bon jeu
et j'adore le côté immédiat. Voilà.
On est d'accord, Julo, que c'est un super trip en multi.
En multi,
en solo, on se fait super chier. Quoi.
Ça n'a pas d'intérêt.
Surtout en coopératif.
D'accord.
Surtout c'est
en
même coopératif. Pas pourquoi, comment on peut y jouer en solo.
Bah moi j'ai joué en solo sur la
d'où
démo.
D'où t'es
venu
cette idée
chier.
Bizarre.
Je me suis fait chier.
Non mais c'est clairement fait. C'est clairement fait pour jouer en coopératif ou en versus. Le fait est qu'en
moi, c'est
versus,
coopératif que j'adore.
En ouais, versus, il y a des bugs qui au bout d'un moment peuvent gâcher un peu le plaisir de jeu, et c'est aussi un des gros reproches qu'on faisait au premier et qui malheureusement n'a pas vraiment été réglé dans la suite. Donc ça c'est quand même un peu con quoi. C'est des erreurs qui étaient identifiées, mais en coop ça reste génial.
En tout cas c'est ce que nous ont dit CAF et Fastkill, nos spécialistes du monde du PC, qui étaient des gros fans du premier, eux ont été vraiment déçus parce que voilà, c'est un peu kiff Lurico. Si on prend
c'est surtout Fastkill.
Ouais, si on prend le train en route, par contre, c'est très plaisant.
Ouais, moi j'adore.
Voilà. Allez, un autre jeu qui contrasté aussi, on aime pas, etc. Enfin bon, t'as adoré toi Pia, enfin adoré, t'as beaucoup aimé Dragon Age Origins.
Oui. J'ai beaucoup aimé, donc voilà.
Fais-nous partager cette passion. De quoi s'agit-il ?
La suite
oui,
dans le test.
Donc le RPG, hein, voilà, héritier des Baldur's Gate de BioWare sur Xbox 360 et PC, et a priori une version PlayStation 3, peut-être un peu en deçà. Moi, je l'ai pas fait sur PlayStation 3.
Moi, j'ai essayé sur PS3. C'est vrai que c'est bon, déjà de base, les versions consoles sont moins intéressantes à mon avis que les versions PC.
Oui, au niveau de l'interface, soyons honnêtes.
Voilà. D'un autre côté, sur console, on a tellement peu l'occasion de jouer à des RPG occidentaux de cette dimension que en fait l'intérêt
quand vous parlez d'envergure, c'est quoi, c'est 60 heures de jeu rien que pour la quête principale,
c'est la taille, mais c'est aussi l'intérêt et la densité narrative, parce que c'est vrai qu'il y a des vrais changements en fonction de tes choix de dialogue, en fonction de ne serait-ce que la classe et la race du personnage que tu choisis au départ. Tu vas pas avoir le même départ et tu vas pas avoir les mêmes réactions.
Ouais, puis je trouve que pour un jeu de ce type, il y a un bel équilibre entre les différentes classes. Quand
ouais,
même, globalement,
ouais, c'est plutôt bien fait. Ouais.
Voilà, non, un bon jeu, un très bon jeu, une belle marge de progression, différentes façons de jouer, une technicité qui se révèle, on l'a dit un milliard de fois.
La technicité ludique en l'occurrence. Ouais,
ouais, voilà, non, génial, hein, vraiment, voilà.
Il y a Prince qui est mort de rire,
je sais pas pourquoi. Non, mais vraiment bien, des personnages quand même bien écrits. On a eu, moi j'ai entendu pas mal de critiques concernant les personnages secondaires autres que Alistair et Morrigan. Je suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'il faut faire l'effort de leur parler, etc.
Bah, en fait, ça dépend
mais
si t'as vraiment joué
écrits.
À Baldur's Gate ou pas. En fait,
oui.
Et c'est vrai qu'à l'époque.
Ouais, mais bon, voilà, c'était l'époque.
Oui, bon, d'accord.
Non, mais c'est vrai, mais je suis d'accord.
Non, mais c'est bien d'y revenir un petit peu parce que c'est vrai que ça manque quoi. À l'époque, il y en avait beaucoup. À l'époque des Baldur's Gate, il y avait beaucoup de jeux de ce genre-là. Enfin, par rapport à maintenant, et maintenant on en a plus trop, et donc voilà, c'est bien de les avoir aussi sur console.
Très bien, on va continuer avec un jeu PC, il s'agit de Runaway, Traz.
Exactement,
t'es en plein dedans.
Le troisième épisode donc, qui boucle la trilogie trilogienne. Et donc
le trois épisodes donc.
Non mais c'était une vanne à deux balles,
c'est pas triptyque,
grave. Exactement, et effectivement, mais c'est pas une bonne surprise parce qu'on le savait déjà.
De quoi, que ça serait bien.
Que ça serait bien.
Ouais.
J'aimais quand même quelques petites réserves, comme vous avez pu voir dans le test, sur certains passages un peu étranges, un peu trop simples peut-être. Il y a un système d'aide que moi, m'a pas forcément convaincu. Mm-hmm. Parce que ça devient, même pour les néophytes, beaucoup, beaucoup trop facile.
Mais t'es pas obligé de l'utiliser.
Pas obligé de l'utiliser, bon. Mais voilà, tu mets un truc devant.
La tentation, mon ami.
Non, mais il aurait mieux valu. Comme dans certains tournois du Grand Chelem, par exemple,
ne
donner que 3 jokers, ouais. Par exemple, par chapitre, parce qu'il y a 6 chapitres, ouais. Et tu les utilises qu'à n'importe quel moment du chapitre. Mmh. Là, c'est autant de fois que tu veux, etc. Donc,
à toutes les fenêtres.
C'est beaucoup trop simple pour ça, mais par contre, c'est magnifique. Mmh. Hein. 120 screens 2D magnifiques, vraiment, qui te.
Ça veut dire quoi, ça, 120 screens
120 écrans de jeu, pardon.
D'accord.
Bon. 120 écrans de jeu, donc. Fait à la main, etc.
Section grand niveau, en fait, c'est ça. Parce que c'est un point and click.
Tout à fait, c'est un point and click.
120
c'est des décors, quoi, si tu veux.
Voilà, 120 décors.
Voilà. Donc, il t'emmène un petit peu partout sur Terre, Alaska, New York, etc. Donc,
et l'histoire reste captivante.
L'histoire, ouais. M'a un petit peu moins plu que le deuxième épisode, mais évidemment, il y a toutes les réponses aux questions qu'on se posait dans le 2, puisque qui se finissaient par un gros à suivre. Mmh. On était un peu resté sur notre fin. Mmh. Donc là, évidemment, on comprend tout ce qui s'est passé.
Et justement, si on prend le train en route, là, si on commence avec Runner 3.
On peut comprendre, parce qu'il y a un petit résumé du 2 qui est fait en vidéo, mais donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai préféré les dialogues du 2, moi, justement.
Bon, bah, globalement, t'as préféré le 2, quoi, en fait.
Non, je dirais pas ça, parce que graphiquement, il est beaucoup plus abouti, celui-là. Mmh. Les animations, elles sont excellentes. Les voix. Rien à dire, c'est des doubleurs français connus, donc vous allez en reconnaître plein.
Il n'y a pas ceux de Metal Gear.
Non, ça c'est sûr, c'est pas les mêmes. Il y a des petits problèmes de son à un moment donné, mais apparemment il y a un patch qui est sorti, donc il faut l'utiliser pour éviter des sautes de bidule. Et non, dans le genre point and click, cette année, c'est le must, et ça reste très 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 bon, quoi.
Formidable, j'ai envie de dire, formidable. On va passer à un autre jeu, cette fois-ci changement d'univers, changement de plateforme. Il s'agit de la Wii avec New Super Mario Bros. Wii. Juste pour vous donner un petit chiffre, généralement en France, quand un jeu marche bien, on va dire très correctement, un jeu moyen mais qui se vend bien, en fin de vie, il fait dans les 50-60 000 exemplaires. Là, l'éditeur généralement est assez content. Et bien sur ces 5 premiers jours de vente en France, Super Mario Bros. Wii s'est vendu à quasiment 90 000 exemplaires. Voilà, vous l'avez compris.
It's me.
Mario est toujours dans la place, il n'y a pas de problème là-dessus. Qui veut en parler? On a bien aimé ici, c'est un jeu assez différent puisque c'est la première fois qu'on peut jouer en multi.
Bah c'est sa vraie évolution, parce que sinon ça reste un Mario relativement classique en 2D avec des niveaux de puzzle, des univers différents. Oui,
mais c'est là qu'ils sont forts, parce que ce côté-là justement va parler énormément à tous les casual gamers
qui vont retrouver les Mario d'antan,
Mario avec les bruitages, les
bien
machins.
Sûr.
Mais co-casual gamer ou aussi aux gamers?
Bah non, justement, aussi aux gamers aussi.
Pose ma question naïve.
Un mode en ligne.
Bah non.
Enfin en ligne. Non, justement. Ah, tu vois, justement, le lapsus.
Voilà. Lapsus révélateur.
Il n'y a pas de mode en ligne, mais un mode multi, bien sûr, à 4 joueurs qui nous a bien fait marrer.
Ouais, nous, on a plus préféré le mode vol.
Course-pièce.
Voilà.
Un vol de pièces.
Par rapport à l'autre qui est complètement compétitif aussi, où tu récupères
d'autres compétito.
Oui, c'est-à-dire que il ne faut pas que tout le monde crève, donc il ne faut pas non plus être trop un enfoiré avec les autres.
Mais
c'est ça qui est justement rigolo, c'est trouver le bon équilibre entre les coups de crasse et.
Mais il n'y a pas de classement à la fin de ce mode, et moi, ça me rend fou. Dans le mode course de pièces, on sait qu'il y a le premier, le deuxième, le troisième,
avec
le quatrième.
Avec des petites couronnes en bas de l'écran comptent les manches.
Et dans l'autre mode compétitif, justement, on gagne plein de trucs, on a plein de points, et puis démerde-toi.
Ouais, faut que tu regardes, que tu comptes.
Ça, c'est un peu dommage.
C'est un peu dommage, et puis donc le fameux mode en ligne qui n'est pas là, donc, et qui est effectivement aussi un regret, mais bon. En fait, c'est le premier Mario qu'on peut jouer en coopératif à 4, et c'est plutôt cool, quoi.
Et pour ceux qui se posaient beaucoup de questions, et parfois certains qui flippaient sur le super guide qui permettait justement de pouvoir avancer dans le niveau si on n'y arrivait
bloqué,
pas,
ouais.
Moi, je trouve que c'est plutôt bien intégré.
Oui, c'est très bien foutu.
Il faut mourir 8 fois consécutivement dans le même niveau. À partir de ce moment-là, apparaît une option. Donc, comme le porte son nom, on n'est peut-être pas obligé de l'activer, qui vous permet de vous sauter les passages un petit peu difficiles. Et puis c'est tout. Le truc ne revient pas. C'est-à-dire qu'après, il faut remourir 8 fois dans un même niveau. En gros, quand on s'est galéré, certains auront l'envie, même chez les gamers.
En définitive, c'est une très bonne idée.
Franchement, quand c'est intégré comme
un
ça,
bon ajout.
Ça va. Il n'y a pas de scandale, très clairement. Et puis, ils ont pensé, moi, je trouve, aux gamers aussi, avec plein de petits trucs. Et c'est là où je trouve que Nintendo est vraiment très fort. C'est l'ajout des vidéos qu'on débloque du club Nintendo qui vous permet de voir des prouesses, des exploits. Voilà.
Et là, t'as la mâchoire qui tombe.
Ouais, puis t'arrêtes de jouer parce que quand tu vois les mecs comme c'est des tueurs, laisse tomber. Quoi.
Alors, en même temps, tu joues pas à Mario. Tu lâches la manette. La performance, tu vois, mais c'est toujours fun de voir le.
On resitue juste pour ceux qui ne sauraient, verraient pas de quoi il s'agit. C'est des mecs du club Nintendo, donc des spécialistes de Nintendo. Qui font des niveaux
à la perfection,
à la perfection avec c'est des chorégraphies,
pièces, des sauts au millimètre,
celle avec les Yoshi.
Avant, tu te dis pourquoi il a zappé toutes les pièces là, puis en fait, tu te rends compte qu'il revient en arrière parce qu'il tape sur une tortue qui va tuer les mecs qui sont devant et en même temps il prend les pièces, il repart de l'avant. Et tout,
c'est prodigieux,
c'est un peu des mutants quoi.
C'est prodigieux. Et puis il reste quand même le mode solo qui reste sympa, même si vraiment le jeu est pensé pour être joué à plusieurs.
Oui, et puis même en solo, il n'y a pas énormément d'innovation par rapport aux anciens Mario. Quoi.
Et les costumes du pingouin sont quand même assez ridicules.
C'est surtout le trip un peu old school, revivre
si
un
je
peu.
Je peux me permettre.
Quant à l'hélicoptère.
C'est ça, voilà. Hein. Enfin bon, en tout cas, on aura bien aimé. C'est vrai que ça fait du bien, un nouveau Mario, même si bon, on aimerait bien le retour en 3D et tout.
Ouais, on aura Super Mario Galaxy 2, mais ça m'enchante pas beaucoup plus que ça.
Bah
fait.
Attends, tu l'as pas vu encore.
Il devrait être vraiment fait pour les gamers, hein, avec des trucs.
Ouais, mais apparemment, il sera plus dur, Julo, t'arriveras jamais à finir.
Ouais, c'est ça.
Moi je veux un nouveau Mario.
Et bah puisque tu parles des deux, des suites, et bah là on va s'en taper bien évidemment deux magistrales. On ne les avait pas oubliées bien évidemment pour conclure ce podcast. D'un côté Call of Duty Modern Warfare 2, le blockbuster qui est en train d'atomiser tous les charts, tous les résultats.
Tous les records du monde.
Et de l'autre côté Assassin's Creed 2, vous voulez commencer par lequel?
Modern Warfare 2, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, comme ça on fera Assassin après, histoire de faire une petite respiration, puis on parlera de Modern Warfare 2 après.
Ok, j'ai rien compris. Je sais pas, mais on va en tout cas commencer donc par Modern Warfare 2. Raon, tu as le micro, tu as fait le test. Qu'est-ce qu'il faut en penser pour ceux qu'on peut rater sur une autre planète?
Moi, je pense que si on a beaucoup aimé le premier, ce qui est le cas de beaucoup de gens, on aimera le deuxième. Moi, j'ai été bon client et je suis toujours bon client. La vraie nouveauté à souligner pour ce nouvel épisode, pour moi, c'est vraiment le mode Spec Ops.
Opération spéciale.
Qui est grandiose.
Qui est super dur.
C'est assez difficile, effectivement.
Ça s'arrache les cheveux, même.
C'est des épreuves à jouer, bon on peut les jouer en solo mais c'est de préférence à jouer à deux et vraiment, vraiment, donc c'est très varié, il y a plein de choses différentes à y faire et le fait d'y jouer en coopératif et que ce soit des courts niveaux comme ça où tu vas améliorer ton score ou ce qu'on te demande de faire dans chacun des niveaux, ça fonctionne très très bien et vraiment pour moi c'est la vraie bonne surprise de cet épisode. Bon après la campagne solo, j'ai envie de dire elle est très bien mais elle est presque accessoire parce que c'est un jeu qui se développe vraiment multi et c'est pas sur ces 6 heures de solo que tu vas claquer tes 60 et quelques euros.
Alors, moi perso qui suis plus amené à tirer par les expériences solo à ce niveau là parce que j'aime qu'on me raconte une histoire, c'est vrai que le premier Modern Warfare m'avait laissé un souvenir impérissable alors je suis pas du tout FPS. Ce deuxième épisode très court effectivement en solo, hein,
bon, c'est la même chose que le premier.
Ah, moi j'ai trouvé ça plus court, les niveaux sont plus danser encore, ça va plus vite. Moi, je me rappelle, j'avais un peu plus de temps de jeu, mais bon, après, ça veut pas dire grand-chose. Peut-être un tout petit peu moins marquant, et à la fois, il y a des missions qui resteront dans l'histoire du jeu vidéo. On les aime ou on les déteste. C'est très difficile, c'est très subjectif. On a dit tant de choses sur Modern Warfare. Il y a tous ces résultats de vente, hein, c'est colossal. Il est en train de battre tous les records, mais même ceux du cinéma. Enfin bon, au secours. Mais juste parce que on n'en a pas encore parlé, notre ressenti finalement, un peu sur la polémique. Ceux qui n'ont pas joué encore au jeu, ceux qui ne veulent pas se spoiler, rendez-vous dans 2 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a cette scène de l'aéroport qui fait couler tant d'encre. Et ben moi, je la trouve passionnante dans le sens où elle m'a totalement dérangé, où dans l'absolu je l'ai prise en pleine face et au début elle m'a fait flipper de me dire mais on essaye de dire que le jeu vidéo c'est pas que de la violence etc et là on est juste meurtrier et puis j'ai pris un petit peu de recul avec mon premier sentiment instantané. Et je me suis dit déjà que la force de cette expérience et la force du jeu vidéo finalement, elle était à l'intérieur. Au niveau du gameplay, c'est très simple, ça apporte pas grand chose.
Non, ludiquement, le niveau il a aucun intérêt.
Il est pas intéressant. Mais d'avoir ce choix de tuer ou de ne pas tuer, d'être un terroriste parmi les terroristes ou pas, et moi j'ai tué personne, je trouve ça passionnant finalement parce qu'il y a un vrai conflit intérieur. J'étais moi-même, j'avais aucune envie de tuer ces gens parce que je trouvais la séquence horrible, tous ces gens là qu'on tue, ces femmes etc, mais quand on dit tous, ils sont 200 quoi, c'est un abattage, l'abattoir, ils peuvent rien faire, ils ont même pas d'armes pour se défendre. Finalement j'ai trouvé ça captivant de voir le conflit intérieur du joueur quoi. Et je trouve qu'elle fait beaucoup parler, cette séquence.
C'est ce qui prouve son utilité pour moi. Ça se résume à ça, en fait. C'est le fait qu'on en parle et qu'on s'interroge sur son utilité et ce qu'elle fait passer comme message ou pas. Ça prouve qu'elle a, elle doit exister. Voilà. Moi, je résume ça comme
je
ça.
Je t'empêcherais juste un truc, parce que si tu mettais genre un massacre à la télé, tout le monde en parlerait, c'est pas forcément diffusable le massacre.
Non,
si tu fais, si tu faisais un jeu de télé-réalité où tu tuais quelqu'un, tout le monde en parlerait.
Ça dépend aussi du massacre. Enfin, je veux dire, si tu. Enfin, bon, là aussi, c'est dans des grandes discussions non plus, mais.
C'est pour montrer aussi le côté hyper malsain du personnage principal que tu pourchasses, quoi. Ça
de Makarov, oui.
Makarov, pour montrer son vrai visage, entre guillemets, genre il est prêt à tout.
Et puis c'est aussi le début, scénario, c'est cet événement-là qui conditionne la guerre qui se déroule dans les chapitres suivants de l'histoire. Mais bon, enfin après le scénario, lui, de toute façon, il est décousu comme un peu comme dans le premier, voire pire pour moi. Enfin, moi, j'ai trouvé plus décousu que le premier.
Oui, bordel, un peu difficile à suivre par certains moments.
Mais cette scène-là, effectivement, pour moi, elle est vraiment importante pour le jeu vidéo en tant que média. Qu'elle soit bien ou pas bien, c'est même pas le propos en fait. C'est qu'elle existe, c'est vraiment pour moi important.
Voilà, la seule chose qui me fait un peu peur avec cette histoire, c'est que je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un peu de génie marketing derrière. Enfin, génie sûrement, avec
y en a
des
sans
guillemets,
doute,
quoi.
Il y en a sans doute, mais
on a parlé que de ça quelques semaines avant sa sortie. Hein.
Je suis pas certain, en tous les cas, que le jeu ne se serait pas aussi bien vendu s'il n'y avait pas eu cette polémique. C'est ça le truc aussi. Donc, bon.
En tout cas, il a été retiré des rayons en Russie.
Apparemment pas.
D'après ce que...
C'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est pas retiré des rayons.
En fait, la version PC a été patchée pour supprimer ce
édulcoré.
Et les versions consoles, a priori, ne sont pas sorties pour l'instant.
Eh ben, mais justement, et pour conclure sur ce sujet-là, en Allemagne, on en parlait tout à l'heure avec notre coup de gueule de Nadine Morano, en Allemagne, cette séquence, qui pourtant est truffée de warnings, hein, c'est-à-dire avant de la commencer le jeu, on vous dit attention, il y aura des séquences dans le jeu qui sont ultra violentes, vous voulez les voir ou pas. Quand la séquence arrive, on demande, vous voulez vraiment la voir ou pas. Enfin, en gros, on peut très bien la zapper. Mais en Allemagne, cette séquence existe. En revanche, si vous tirez, donc vous tuez des civils, c'est game over. Et
bah,
je trouve
du coup,
que c'est soit
niveau,
la retirer.
Bah oui,
c'est soit débile, si c'est vous retirez justement ce choix moral qui fait toute la force à mes yeux du jeu, quoi. Enfin,
bah de cette séquence en particulier.
Et bah,
c'est tout l'intérêt du truc.
Elle ne sert à rien.
Mais bien sûr,
elle ne sert à rien. J'espère que jamais on aura ça en France parce que moi ça m'aurait fait mal au cœur. Et parce que dans ce cas-là, je la trouve horrible. Parce que dans ce cas-là, on est juste spectateur d'une tuerie. Point.
Et on t'oblige à rester dans ton siège pour la regarder.
Et attendre. Parce que c'est longtemps, hein, ça dure 5 minutes, avoir un massacre. Bah, je préfère me dire, j'ai pris le choix de ne pas le faire plutôt que, bon, comme on m'a dit de pas le faire, de toute manière, je vais devoir me la taper. Puis voilà. Je trouve ça horrible, horrible. C'est malsain, cynique. Enfin bon. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Modern Warfare 2 ?
Non, ça va.
La messe est dite. La messe est dite. Alors, on va passer à Assassin's Creed 2. Le premier, superbe, mais répétitif. Le second, moins superbe, mais peut-être plus étoffé.
Oui, on peut résumer ça comme ça. Suivant la sensibilité de chacun, on appréciera plus ou moins cette suite pour différentes raisons. Moi, personnellement, je l'ai trouvé un peu moins... je suis moins rentré dedans par rapport au premier. Ce qui n'empêche que pour toutes les réclamations, entre guillemets, qu'on pouvait formuler à l'égard du premier, Ubisoft a fait un bon travail d'enrichissement. Il y a beaucoup plus de choses à faire. L'histoire est mieux contée aussi. T'arrives avec une fin qui est plutôt satisfaisante par rapport au premier où t'étais un peu lâché avec un cliffhanger... et à suivre un peu à la Runaway 2 voilà. Donc à tous les niveaux c'est mieux foutu pour ce qui est du gameplay et du game design. Par contre techniquement j'ai été vachement déçu.
Les visages au secours, c'est ancien, c'est vieux.
Pour les scènes cinématiques, ouais, c'est
ah ouais,
ça va pas.
Les cinématiques et les scènes
en Toscane
et
en dehors
des villes,
dehors des villes,
Les personnages
parce
sont
parce que
rigides.
Dans les villes c'est quand même magnifique. Franchement,
mais
c'est
les textures
mais
pop
à mort,
mais
ça pop beaucoup. Ouais.
Ah, c'est sûr que si on met ça en balance avec Uncharted 2,
mais pas qu'Uncharted,
encore lui.
Là, on voit The Saboteur qui vient d'arriver à la rédaction. C'est au minimum égal et il y a même un style en plus. Et techniquement,
mais
les visages sont plus travaillés. Pourtant, il y a une variété de personnages. C'est un monde ouvert aussi.
T'as pas un monde
c'est un monde ouvert aussi, mais
aussi.
T'as pas autant de ruelles et de trucs avec du monde dedans. Enfin, c'est pas la même optique.
Il pourrait faire un moteur spécifique pour au moins pour les cinématiques, les cutscenes.
Bah, c'est ça, je suis super d'accord. Beaucoup de studios font ça depuis très longtemps. Hein, je veux dire, Kojima, il faisait ça sur le premier Metal Gear. Quand t'as des cinématiques, c'est pas tout à fait le même moteur que dans le jeu. Histoire d'avoir justement quand même des cinématiques in-game un peu boostées. Et eux ne le font pas, et je trouve que c'est un peu dommage en 2009 de passer à côté de ça, quoi. Surtout quand t'as effectivement des titres à côté qui mettent tout le monde d'accord sur la qualité de leur cinématique.
Et sur une super production comme Assassin's Creed,
c'est
avec 400 personnes.
Ça reste un excellent jeu.
Parce que contrairement à Splinter Cell Conviction qu'ils ont pu repousser, là je pense qu'à mon avis Assassin's Creed 2 ils pouvaient pas se permettre de repousser le truc genre 6 mois plus tard pour tout peaufiner. À mon avis c'était pas possible.
Mais comprenez bien, en tout cas, ça reste quand même un grand jeu. Hein,
oui, oui,
plus riche que le premier.
On coupe un peu les cheveux en quatre.
Et qui marche beaucoup mieux que le premier d'ailleurs sur la même période.
Ça, c'est normal, c'est le phénomène de la suite et de la marque imposée. Hein.
Oui, mais Uncharted 2, il marche pas aussi bien que le premier. Non. Et pourtant, voilà quoi.
C'est vrai.
C'est étonnant.
Mais après, il a pas le marketing d'Assassin's Creed 2 non plus.
Non, parce que pour passer à côté d'Assassin's Creed 2 ou de Modern Warfare 2 en ce moment, faut se lever tôt hein, quand même.
Ou très très tard. C'est ça. Toutes les boutiques sont fermées quand il n'y a plus rien à la télé.
Allez, pour conclure ce podcast, la dernière information qu'on voulait développer, ce n'est pas un jeu, c'est une nouvelle console. Elle est sortie au Japon le 21 novembre 2009. C'est la nouvelle itération de la DS, et plus précisément la DSi, la DSi LL, cette espèce de mini netbook pour les portables, les consoles.
C'est vrai que c'est quasi aussi gros qu'un netbook.
Hein. C'est ça. Hein,
pour les malvoyants.
Et avec ses couleurs incroyables, ronces de noyer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Et son stylo énorme. Son stylet énorme, pardon.
Je suis étonné qu'il pense à la sortir en France parce que finalement, cette console, elle est née suite à une étude auprès des consommateurs et apparemment notamment des consommateurs
des seniors.
Seniors, voilà, les plus âgés. Qui ont peut-être des problèmes de vue, je sais rien, mais dans tous les cas, ils souhaitaient une console plus grosse, quoi. Alors je sais pas si ça.
Ils voulaient surtout ratisser beaucoup plus large, à mon avis.
Ah bah, c'est surtout qu'au Japon, il leur reste plus personne à taper voilà. chez
les jeunes, les mères de famille, etc.
Ah bah attends, il y en a qui rachètent des LL quand même. Bon, c'est une minorité, mais il y en a qui rachètent des LL pour en faire des petits terminaux web pratiques. Donc,
ils détournent un peu l'utilisation première, effectivement. Ça
mais effectivement, c'était aussi beaucoup pour le côté internet, surfer dessus, effectivement, pour les. Les gens du 3ème âge ou 4ème âge.
Je suis pas sûr que ça fonctionne, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Quoi. Enfin, je le vois mal.
En tout cas.
Ils ont certainement pas mis tant de pièces que ça non plus. À mon avis,
En tout cas, je pense ça démarre bien. Hein. C'est déjà les meilleures ventes.
Plus de 100 000, là où la PSP Go faisait 20 000, c'est 5 fois plus. Hein.
Bah ouais. Mais et là, ils avaient pas l'appui des revendeurs avec la PSP Go.
C'est sûr.
Pour les problèmes qu'on connaît.
Mmh. Mais elle va sortir donc sous une autre appellation chez nous, DSi XL.
Oui, parce que chez nous, LL, ça n'existe pas.
Non,
ça ne veut pas dire grand chose. Bah, ça veut dire XL, quoi.
C'est
fait.
Ça. Voilà.
Ils ont déjà appelé LOL. LOL.
Ça devrait sortir en début d'année chez nous, mais a priori, il n'y aura pas un énorme battage autour de sa commercialisation parce que c'est vraiment un autre produit pour un autre public. Le cœur de la communication de Nintendo devrait rester sur la DS et la DSi. Voilà, allez, toute dernière information pour clôturer ce podcast.
Mais non, des moindres. Qui viennent nous arriver par téléscripteur.
Zelda, qui commence à faire de plus en plus parler de lui pour la version Wii.
Là, il apparaît clair qu'on va le découvrir au prochain E3, hein, parce que il a d'ailleurs failli être dévoilé au dernier E3, finalement ça a été repoussé, finalement c'était juste un tour de table avec Miyamoto, etc.
Avec
bref,
une image.
On pouvait s'attendre à tout et n'importe quoi, je sais pas, en fait là il y a des déclarations récentes de Aonuma, donc le producteur du jeu depuis que Miyamoto a laissé sa place. Bien qu'il
il a commencé
sûr,
en fait,
parce que justement dans sa déclaration il explique qu'avec Miyamoto il a eu de longues conversations et qu'il remettait en question en fait toute la tradition de gameplay des Zelda, parce que
la structure en fait c'est
la structure hein. Moléculaire,
voilà. la structure du jeu qui est la même depuis le début finalement et qu'il sentait l'urgence de renouveler cette structure, de la réinventer. Pour convaincre les joueurs, pour continuer à convaincre les joueurs. Voilà.
Je sais ce qu'ils vont faire, ils vont faire comme New Super Mario Bros. Wii, ils vont mettre un mode multi. Voilà. Et là, le silence.
Tu m'étonnes. Voilà, c'est genre, c'est bon de réfléchir. Attends, est-ce que c'est une idée à la con ou pas?
Moi, je pense à un jeu chapitré avec des épisodes, un grand livre, etc. On tournerait pour.
Pourquoi pas?
Pour que les gens puissent avoir, tu vois, des petites missions d'une demi-heure.
Parce que c'est vrai que
dans un même univers,
voilà,
on raconte
joueurs,
un joli conte.
En fait,
les
non, joueurs, les gars,
joueurs,
ce
ça
sera
leur fait
un
peur,
MMO.
Les longues aventures, etc. Donc,
etc.
Donc c'est vrai que d'ailleurs c'est Resident Evil 4, souvenez-vous, il s'était déjà vachement rendu action, etc. Mais il s'était aussi casualisé quelque part parce que c'était divisé en épisodes que tu pouvais finir assez rapidement, reprendre ta sauvegarde du coup. Enfin tu vois, il n'y avait plus ces histoires de sauvegarde, de reprendre le jeu, tu sais plus où est-ce que t'en es, tu pouvais recommencer le chapitre. Et là c'était.
Mais c'est vrai que Traz a raison, la série des Zelda a déjà eu des tentatives de jeux multi. Hein,
ouais, avec Forsworld.
Forsworld, etc. Et peut-être que c'est quelque chose.
Marrant, d'ailleurs.
Oui, ce sera un MMO.
Bah oui.
Moi je pense que ça sera Link à notre époque.
Dans tous les cas, quelque chose va changer dans Zelda. Je sais pas si on doit accueillir ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle.
Bon, on en sait rien parce qu'on connaît pas.
Voilà, mais vu la tournure des événements dans tous les jeux Nintendo,
Bah, on peut être ouais, intéressé.
Je suppute que c'est une. De toute façon, en ce qui me concerne, peut-être une mauvaise nouvelle.
Ah bon ? Ah ouais, je suis pas sûr, moi. Ah ouais. Je pense pas qu'ils fassent de conneries avec ce genre de licence. Hein. Ouais. Ça serait vraiment.
Moi, n'ayant pas. Enfin...
Pia dit, mais si.
Qu'est-ce que t'appelles une
très vindicatif.
Est-ce qu'ils ont fait une connerie en changeant les formules d'autres jeux à Nintendo ?
Tu connais Chad Connery ou pas ?
Ouais.
C'est un acteur.
Qu'est-ce qui se passe ? Tu comprends pas ?
Là, il est tard, voilà. Traz, il en peut plus. C'est son signal pour dire j'en ai marre, arrêtons ce podcast.
J'essaie de parler avec Traz, mais lui, il veut partir.
Voilà.
Et puis il y a aussi la citation d'Aonuma qui parle de peut-être que son fils lui a parlé, mais après le bateau, après le train, tu vas faire quoi ? Tu vas faire l'avion ? Et il a fait.
Au secours !
Ah, bah,
quelle bonne idée, dis donc !
Voilà, non mais peut-être et tout, et pourquoi pas ? Non mais imagine un espèce de petit delta plane.
Qu'est-ce qu'il y a, Pia ?
Parce
que moi
je mets déjà pas le.
Ou des
Zeldicar. Des
Zelda,
Dicar. Bon, alors maintenant l'avion. C'est pas possible.
Non, non, l'avion, on n'a pas dit dans l'avion, c'est dans les airs.
Dans
les
ouais,
airs.
Je peut-être. Sais, mais bon, bientôt il va prendre une navette spatiale, Link, quoi.
Non, c'est impossible. Ça peut être un bateau volant.
Attends, tu t'es tapé combien de décennies ? Des boomerangs, des machins, ouais. Peut-être que des ailes pour
Epona,
voler. Ça peut être
de
classe.
Dieu, rendez-nous Epona.
Mais l'un peut aller avec l'autre.
Bien sûr.
Non, Epona, je suis pas d'accord.
Tu connais les Transformers,
voler, etc. Ça pourrait être classe. Quand il y a eu Majora's Mask et qu'on avait ces transformations, on pouvait rouler, nager, etc.
Bien sûr, mais entre les transformations de Majora's Mask et la locomotive. Mais il y a une révolution industrielle.
N'importe quoi.
Ah mais tu sais que tous les Zelda ne se passent, c'est pas le même Link, il se passe plusieurs centaines d'années, voilà. Des siècles
mais
entre chaque Zelda.
Sûr,
c'est pas très cohérent,
quand
on va
même,
dire.
Quand même.
Un Grand Theft Zelda.
Moi je suis très
bam,
inquiète. Moi je suis très inquiète pour la.
Non
de
moi
Zelda.
Je pense que pourquoi pas renouveler un peu le genre, ça peut être une bonne chose et voilà quoi. J'espère qu'ils vont prendre des bonnes surprises et nous allons vers ça de toute façon.
Eh bien, mademoiselles et messieurs, maintenant il est temps de laisser nos internautes débattre. Qu'est-ce que vous en pensez, Vindhu ? Eh ben, vous pouvez le dire dans les forums, nous dire un petit peu ce que vous pensez de l'avenir imminent de Zelda, en sachant que The Spirit Tracks arrive très bientôt sur Nintendo DS avec sa fameuse locomotive. Voilà, c'est tout pour ce podcast bilan de novembre 2009 sur Gameblog.fr. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine avec un podcast spécial Noël qui fera le point sur les gros jeux de l'année 2009 avec la rédaction qui sera là pour débattre et lire ses tops et ses flops.
Ça risque d'être long.
Ça risque d'être long. Un joli podcast de près de 2 heures en perspective, vous allez voir. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous
bien.
Et surtout, jouez bien. Ciao.
Ciao.